Allez, ça va être encore une bonne émission là, super.
Salut et bienvenue dans les Stamineurs, le podcast comics, société et culture pop. Oui, c'est bien celui qui influence vos influenceurs. Vous le savez, vous nous écoutez partout où on sait lire un podcast, d'Apple Podcast à Deezer en passant par Spotify et PodCloud. Pendant que j'accueille nos convives d'aujourd'hui, vous allez filer sur Twitter et sur Facebook pour partager l'annonce de cet épisode auprès de vos amis, voire des gens qui vous suivent juste pour vous troller parce qu'ils vous aiment pas trop. Les liens de tout ça sont évidemment sur estaminerd.fr. Nos convives du jour, Monsieur Christian.
Salut Mathéo.
Alors Christian,
comment tu vas?
Es-tu toujours aussi méchant?
Ça va. Normal.
Ouais.
Standard.
La base.
Qualité. Qualité niveau. Fait. Irréprochable. Nous sommes évidemment avec Valérie. Salut Valérie.
Oui, bonsoir. Non, c'est la pire imitation de Giscard d'Estaing qu'on ait entendue. Bonsoir.
Non, c'était
Val,
génial.
Ça te fait
c'est
quoi
Giscard d'Estaing, mais après sa mort.
Ouais.
Avec un mec qui a un bras dedans pour le faire bouger comme t'as taillé.
C'est
Val,
ça
te fait quoi d'être mon chouchou?
Oh, bah voilà.
Je peux pas foutre la merde avec les autres, hein.
Écoute, ça me fait plaisir, tu vois. Ça me touche.
Déjà que Yanda était de mauvaise humeur, je pense que là, on va être au meilleur là.
Et ben on va lui demander salut mon petit Daniel. Salut Daniel.
Yanda Daniel.
Pas mal.
Monsieur Niel. Yanda Niel.
Salut. Le frère de Xavier.
Lui-même. Bien le bonsoir.
Où est-ce qu'on en est Yanda?
Ben écoute, on est pas mal. Hein, j'ai envie de dire qu'on est pas mal.
Je parle de notre amitié.
Ah. Ben elle est en confinement, non?
Ouais. J'ai tenté de te faire découvrir un chouette morceau de rap et toi tu t'as pas aimé.
Non, ouais, c'est vrai. Mais après, comme je te l'ai dit, je n'ai pas le monopole du bon goût et donc
pas loin quand même.
C'est pas parce que moi ça ne me plaît pas et ça ne m'interpelle pas que ça remet en cause tes goûts, tes couleurs et tout ça quoi.
Pourquoi t'as pas aimé?
Pourquoi c'est le morceau déjà? C'était cool.
Ah non, mais ça, on ne va pas le dire.
Ah d'accord.
Bah, parce qu'on ne va pas faire non plus de mauvaises pubs au groupe, tu vois, Yanda a pas aimé, on va pas non plus les mettre dans l'embarras, c'est compliqué quoi.
Putain, quelle honte. Non, pourquoi j'ai pas aimé? En fait, c'est. Alors, il y a plusieurs choses. J'ai un peu de mal avec ce type de prod.
On va quand même dévoiler le morceau. C'était le rap qui dérape de Pascal Légitimus.
Voilà, c'est ça.
Pour ceux qui veulent taper. Ouais.
C'est un morceau très qui fait. Je sais pas de quand il date, mais il fait très années 90 en fait. Et pas forcément le rap des années 90, parce que j'aime beaucoup beaucoup de choses du rap des années 90, mais pas ça, avec des instrus très simplistes comme ça et qui tournent sur une boucle comme c'était beaucoup le cas dans les années 90, où avec une MPC tu faisais une instru en 10 minutes et ça faisait un hit. Et j'ai pas trop aimé la légèreté et la technique sur les paroles. Mais après voilà, ça n'engage que moi une fois encore.
Allez, je prends le micro en direct du chapiteau, je présente le show, on forme comme t'as en queue de pie. Si on était dans la rue, tu dirais c'est un Macron. Mais j'ai la classe et la forme, je suis master de cérémonie MC. Loyal, spécial, loyal, létal, totalement inédit. Je présente mon cher Kakous, mix ma clique la plus funky depuis ma Normandie. Quand on arrive dans ton bled, c'est perdre tes castings au poste. T'as des plus belles populaires, ils veulent être la nouvelle femme à Boba. Elles en veulent les pics pour qu'on les ramène à LX. Mais elles vont faire les cruches quand elles verront l'enfant de H.
Le morceau s'appelle Hip Hop Circus. Il est signé du groupe Acosmic et il est sorti le... Je l'avais sous les yeux, le 15 octobre 2010.
Ok.
Très bien.
Bah,
j'irai checker ça.
quel post-prod, tu vois.
Ah, c'est oui, quand même bien fait.
C'est beau la technologie.
On va en parler de technologie puisqu'on va revenir sur les errances de Twitch. On va parler de robots géants aussi. On est à fond dans la technologie. Mais avant ça, nous avons une petite animation culturelle à honorer. Une animation secret.
Tout à fait.
Le fameux jeu du sous la couette dans ton cul. Valentin, qu'est-ce que c'est?
Alors, le jeu du sous la couette dans ton cul est très simple. Il suffit de prendre, par exemple, une expression populaire et d'y ajouter au milieu, à l'hémistiche, j'ai envie de dire, sous la couette, puis à la fin de la citation, dans ton cul, par exemple, tombe à la cruche à l'eau quand la fin elle se casse. Tombe à la cruche à l'eau sous la couette, qu'à la fin, elle se casse dans ton cul. Et ça donne des situations truculentes et merveilleuses. Et ça marche aussi avec des répliques de films. Je le sais, je l'ai testé.
Page 117 de ce livre, nous avons « Qui se ressemble, s'assemble ».
Oh, elle est bien.
Elle marche,
ouais, ouais, ressemble. Ouais, elle fonctionne très bien, oui.
« Qui se ressemble sous la couette, s'assemble dans ton cul ». C'est pas mal. Elle est bien.
Ça marche notamment avec des briques de Lego, par exemple.
Oui,
c'est... Après, je connaissais pas « Il n'y a pas de rose sans épine ». Bon, il n'y a pas de rose sous la couette sans épine dans ton cul. Bon,
ça marche aussi, ça marche aussi.
Ça marche aussi, ça marche,
ouais.
Aussi.
Ouais, c'est moins mon truc. Bon,
faut faire attention à pas trop se tourner dans son sommeil, quoi, c'est tout. Ça fonctionne.
C'est vrai. T'es du genre à tourner dans ton sommeil?
Non, moi je suis du genre à dormir tout au bord du lit. Voilà, c'est mon... Chacun ses trucs. Moi je dors vraiment tout au bord du lit. Je peux mettre un lit gigantesque, je vais dormir tout au bord. Voilà. Je
sais donc pareil. Tu as un lit qui est concomitant avec un mur en fait. Tu dors dans l'angle formé entre le matelas et le mur.
Ah non, parce que je n'aime pas dormir près d'un mur. Donc non, je dors vraiment au bord du lit en équilibre. Voilà.
D'accord.
Je suis un équilibriste. Un équilibriste du sommeil
à n'importe quel moment.
Voilà.
D'accord. Même quand il dort, il vit dangereusement ce mec en fait.
C'est ça.
Ok. Mais au bord du lit contre le mur ou au bord du lit contre le vide?
Non, contre le vide, ouais, c'est d'accord. Ce que je viens de dire.
Je t'écoutais pas, je t'écoutais
pas. Mais non, mais merci, ça me fait plaisir.
En fait, j'étais bloqué sur le mot concomitant et je viens de comprendre du coup pourquoi il parlait de ça. Ça y est, c'est bon. Ok. Non, excusez-moi.
Mais du coup, c'est intéressant, ça veut dire que si tu dors avec Chris, comme il est sur le bord du lit, t'as toute la place en fait.
C'est ça. Ouais, exact.
Ce qui est plutôt une invitation. D'ailleurs, si vous voulez dormir avec Chris, n'hésitez pas à nous envoyer un mail, comme vous le faites régulièrement, pour nous donner des commentaires sur cette émission. N'hésitez pas.
Non, mais en fait, du coup, pour gagner de la place chez moi, j'ai qu'un bord de lit. Je suis pas un lit entier, donc du coup, c'est pas la peine de venir dormir avec moi. Juste acheter le bord du lit.
Il a un lit avec deux pieds, en fait. Ouais, c'est ça.
C'est ça.
Et tu ne bouges pas après. Tu restes vraiment au
ça,
bord
ouais,
et tu ne bouges pas.
Ouais,
très bien. Tu as un sommeil de plomb et calme, quoi.
Plutôt, ouais, je pense.
Il dort avec un œil ouvert, ce qui est très impressionnant.
Ça, c'est pas impossible non plus, hein, parce que en fait, je vérifie pas, tu vois. Personne ne vérifie dans la nuit si j'ai un œil ouvert ou pas. Donc
ça, c'est flippant. Hein. Les gens qui dorment les yeux ouverts, c'est très flippant.
Tu as déjà vécu ça?
Oui.
Ah
bah ouais. Et c'est vraiment flippant.
Ma femme toutes les nuits.
Non, pour le coup non, mais c'est effectivement vraiment très flippant puisque t'as un peu l'impression que la personne est un peu décédé, quoi, jusqu'à ce que tout le monde respire. C'est merde, mais c'est très très bizarre, ouais. C'est vraiment
mais
très
ouais,
bizarre.
C'est presque ou c'est même plus du somnambulisme à cette.
C'est assez différent parce que bon, déjà le somnambulisme, la personne n'est plus allongée. Hein. ça je le sais parce que. Je suis atteint de somnambulisme et par extension mes enfants aussi. Donc c'est aussi impressionnant.
On a fait 36 émissions. On a encore jamais parlé du somnambulisme de Yanda et de ses enfants.
On en a jamais parlé. Alors du somnambulisme de Yanda et ses enfants, c'est sûr que non, mais j'étais persuadé d'avoir parlé du mien. Mais
je peut-être ne suis pas sûr.
Ah, écoutez.
Celui de Yanda, non. Moi, je crois que je vous ai raconté le mien aussi, où j'ai démonté un convecteur.
Ah oui, c'est pour ça que je me disais bien. Ouais. Mais du coup, pardon de t'avoir interrompu. Ça a l'air vraiment très intéressant, cette famille de somnambules qui s'en va.
On se donne des rendez-vous. On se retrouve. Et là, et tu, en fait, tu le vois dans les yeux que, en l'occurrence, mes enfants, ils sont en train de dormir, mais ils sont réveillés, ils ont le regard un peu vide, quoi. Mais ils te parlent et c'est, alors des fois ça fait sens, des fois non. Et puis, bah, quand ils te parlent, tu te dis, ah oui, d'accord, ok, t'es en train de dormir, quoi.
Ça, c'est parce que c'est des enfants. Aussi, les enfants, ils parlent vrai. Et ça veut rien dire.
Et c'est pour ça d'ailleurs que quand ils viennent, ils me parlent, je leur mets une grande claque dans la gueule. et du coup, quelle horreur.
Tu vois s'ils sont réveillés ou pas.
Et c'est ça. Et puis pour le coup, ça les réveille. Et comme il faut pas réveiller un somnambule, voilà.
C'est le village des damnés chez Yanda. En fait.
C'est clair.
Toutes les nuits, ses enfants se réveillent, ils ont les yeux blancs et tout. Et... Ouais. Mm.
Mais ils ont fait des trucs, tu les as pris en flag, genre en train de bouffer du Nutella. Non, mais c'est parce que tu es somnambule.
Non, 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 j'ai retrouvé il y a pas très très longtemps.
Des petites crottes dans un coin comme ça.
Non, j'ai retrouvé, du coup, on a retrouvé avec ma femme parce qu'on avait entendu un peu de bruit. Et en fait, ma fille s'était relevée et allait dans la salle de bain. Elle allait rentrer dans la douche en fait quand on est arrivé et en fait je sais plus ce qu'elle a dit, mais elle a dit un truc qui n'avait rien à voir avec la salle de bain, que genre elle partait je sais plus, elle allait au salon ou elle allait chercher un truc, elle cherchait un livre, une connerie quoi. Elle dit ah oui non là ma chérie c'est pas par là en fait, c'est de l'autre côté, on va te ramener au lit, ça va bien se passer.
Et était-elle agressive?
Non,
tu la contredisais, d'accord.
Non, ça va.
Très bien.
Ça va. Par contre moi je suis très con quand on me réveille. Si Madame Yanda était là, elle pourrait en témoigner. Je fais partie de ces gens qui sont détestables au réveil. Et si tu me réveilles, je suis vraiment, vraiment, vraiment ignoble. Ouais, très désagréable.
Je comprends parce que je suis pareil. Et comme je suis tout le temps à moitié endormi, je suis tout le temps désagréable. Donc, du coup, mais oui. Ce syndrome-là, je le connais aussi. Ouais. Il me faut ma petite demi-heure de laisse-moi tranquille, me parle pas, je me réveille tranquillou, ça se met en marche et après, c'est bon, ça part.
Alors comme moi j'ai des enfants, je fais avec 2 minutes, mais ouais. mais c'est à peu près la même chose. Voilà, vous pouvez reprendre votre émission.
Merci. C'est un truc que j'ai découvert moi il y a peu de temps, ça, le être avec quelqu'un qui tu peux pas parler pendant une demi-heure après le réveil. Je connaissais pas. J'ai attendu 40 ans pour découvrir ce genre de comportement et du coup j'avais pas beaucoup entendu parler non plus du phénomène et oui c'est assez déstabilisant. Et l'enfance somnambule, j'ai pas eu l'enfance somnambule, j'ai eu la terreur nocturne. Donc avec le bébé, et du coup, il parle pas. C'est-à-dire que, ou peu, il dit juste, non, laisse-moi. Et il est réveillé, il bouge, il réagit avec toi, mais il est dans une autre réalité. Et ça dure 20 minutes, et ça s'arrête exactement comme c'est venu. Tac, et tu peux rien faire, en fait. Donc, le taper, lui mettre une douche froide, l'emballer, tout ça, ça sert à rien, en fait. Tu peux rien
faire. C'est pour ça que ça a duré 20 minutes.
C'est ça. Il y a un moment où l'enfant ne réagissait peut-être plus à la terreur nocturne, effectivement.
Et en fait, c'est assez, on n'est pas briefé du tout, tu vois, ça. C'est le truc, quand t'as un gamin, alors là, Yanda peut t'en parler parce que, bah, en plus, il en a deux. Mais quand on te le donne, puis on te dit, bah, c'est bon, on vous a pris tout votre argent, vous pouvez quitter l'hôpital et rentrer chez vous,
t'as pas la notice.
T'as pas la notice avec et tu dois te démerder, quoi. Et franchement, ce truc-là, c'était un peu, ouais, d'accord, ok, comment ça marche et tout. Et en fait, quand ton gamin hurle comme ça au milieu de la nuit, pour rien, bon, d'abord, ça fait chier parce que il hurle pour rien et que t'es au milieu de la nuit, mais surtout, tu culpabilises parce que c'est genre les voisins, quoi. Nous, le truc, c'était, non, mais attends, parce que l'immeuble, il est sonore, attends, ne pleure pas, s'il te plaît, enfant. Ouais, c'était un scandale.
Ça a vraiment duré 20 minutes ou c'est,
À chaque fois que ça arrive, ça dure 20 minutes, ouais.
Waouh. Eh ben.
Ah bon, on passe des bons moments. Allez-y, je vous jure, la paternité, c'est un bonheur.
ça me donne encore plus envie d'avoir des enfants, dis donc.
Du coup, bah, c'est peut-être l'occasion de faire des tutos. On va parler de position sexuelle préférée. C'est peut-être le moment de...
Non. Alors, Chris, est-ce que t'as déjà été somnambule, toi?
Non, bah moi, du coup, bah sur le bord du lit, c'est bien. Du coup, pour rester dans le sommeil, tu vois, comme ça, tu peux t'endormir là où t'étais après le
non,
sexe.
Non, on parle pas des positions sexuelles, on parle du somnambulisme.
Bah aussi,
Chris.
Pareil, sur le bord du lit, somnambulisme. Tout, je fais tout sur le bord du lit.
Somnambulisme, c'est comme ça semble à un mot sexuel, non? Somnambulisme, c'est comme priapisme ou des trucs comme ça.
Reste là, moi, je vais être somnambulé, tu vas voir. Ouais.
Non, Chris, on compte sur toi pour nous emmener en vacances.
Ah.
Ouais. Et on ne va pas au soleil avec toi, Chris. On va aller faire de l'urbex, de l'exploration urbaine. On va aller visiter le village des gens qui saignent du nez.
Ah oui.
Oui, c'est une petite anecdote dont je vous ai parlé il y a quelques temps, pour une autre histoire que je ne raconterai pas dans cette émission.
Et tu nous as teasé comme un bâtard. On voulait pas enregistrer d'émission. Ouais. Et tu nous as dit, ah bah, si on fait pas d'émission, je pourrais pas vous raconter cette anecdote.
Donc, non, c'est pas du tout ce que j'ai dit, mais admettons. Donc, en fait, ça se passe dans les années 80, dans un petit village dont j'ai oublié le nom. Mais alors, vous pouvez retrouver ce documentaire sur YouTube. Ça va s'appeler Le Village Maudit. Voilà, vous allez trouver ça forcément.
Le village maudit.
Dans les années 80, il y a un village où subitement plein de gens se mettent à saigner du nez, mais à saigner du nez de façon exponentielle. Alors moi, dans mon enfance, je saignais beaucoup du nez. Et d'ailleurs, c'était de famille aussi, puisque dans ma famille, beaucoup de gens du côté de ma mère saignent abondamment du nez. Mais quand je dis abondamment, ça peut durer plusieurs heures. Par exemple, l'année dernière, j'ai eu une grosse grippe. J'ai saigné du nez pendant 3 heures, mais 3 heures non-stop, et où il y avait vraiment un débit très conséquent. Et à la fin, t'es vraiment fatigué, tu vois, parce que tu te vides un peu de ton sang quand même.
Bah, t'es mort en théorie, oui.
Alors, je suis mort plusieurs fois, oui, effectivement. J'ai été, voilà. Voilà. Je sais plus où j'en étais de cette histoire de mort et de saignement de nez. Donc j'ai
Il y a un village qui saigne du nez.
Voilà, dans les années 80, il y a un village où comme ça, tout le monde se met à saigner très abondamment du nez, au stade d'en remplir des serviettes, de se mettre la tête au-dessus d'une bassine et de laisser couler parce qu'en fait, t'as plus assez de...
Et de faire du boudin et...
Enfin, voilà, ça. T'as plus de quoi éponger le sang qui s'écoule. Et forcément, eh bien, les médecins ne comprennent pas pourquoi tout le monde saigne du nez dans ce putain de village, sachant que c'est hyper localisé. Donc, il y a un peu...
C'est dans, entre les yeux et la bouche, en fait.
Oui, c'est très très localisé.
Oh là là.
Elle était très très bien.
Très très dur. Hein. 18 minutes d'émission, les gens sont déjà fatigués.
Et en 18 minutes, on a quand même réussi aussi à dire hémistiche, concomitante et exponentielle. Donc, on équilibre les.
C'est voilà. Vrai que c'est pas mal. C'est vrai que c'est pas mal. Donc, il pense un peu à tout. Il pense aux ondes radio. Il pense à éventuellement de la radioactivité qui pourrait être dans le sol. Bref, ils font le tour de toutes les hypothèses. Puis bien sûr, il y en a forcément qui viennent avec des hypothèses un peu mystiques, un peu ésotériques. Hein,
c'est comme les si,
tout voilà entre
c'est
ça.
Les extraterrestres.
Les E.T. comme si les Little Greys, comme si éventuellement il y avait une malédiction, des choses comme ça. Et en fait, plot twist de l'histoire, révélation finale. Il s'avère que dans ce village, il y avait un monsieur, un grand-père, donc de l'une des personnes qui saignait beaucoup du nez, qui était lui-même atteint de ce mal et qui saignait du nez comme ça pendant des heures. Et en fait, quand on a recroisé un peu tous les gens, alors je sais plus s'ils font des analyses ADN croisées ou je sais plus trop comment ils retrouvent ça à la fin. En fait, il s'avère que ce fameux grand-père était un petit peu un chaud lapin, hein, comme on dit en bon François. Okay. Et du coup, il a copulé avec la moitié des femmes du village, ce qui fait qu'en fait, tous ces gens sont plus ou moins cousins à différents degrés. Et donc, cette tendance à saigner du nez étant génétique et étant liée à une maladie génétique très particulière qu'avait le grand-père, il l'a refourgué à tous ses descendants, donc enfants et petits-enfants. Voilà, et donc que dans le coin, tout le monde saigne du nez.
Et comme il y a une génération intermédiaire, effectivement, puisque tu as dit grand-père, donc enfants et petits-enfants, ça veut aussi sans doute dire que tous ces gens n'étaient pas forcément au courant et qu'ils ont donc baisé entre frères et sœurs.
Alors, je me souviens plus, à vrai dire, de tous les détails de l'histoire. Je vous invite à regarder le documentaire. C'est un petit peu long, hein. C'est pas forcément rigolo tout le long. C'est-à-dire que la révélation finale est assez drôle. Je vous l'ai spoilé, du coup. Mais,
bon, c'est pas terrible. La fin est bien, mais je voulais raconter.
Non, mais le déroulé est quand même intéressant parce que tu vois par toutes les étapes où les gens sont passés pour en arriver là. Et c'est quand même une véritable enquête pour le coup. Et évidemment, parce que comme toute maladie génétique, il y a des gens qui sont atteints et d'autres pas. Donc voilà, c'est pas forcément des cas systématiques. Et oui, il est probable que dans l'eau, il y ait des mariages peut-être entre cousins, cousines et tout. C'est pas improbable.
Des mariages consanguins.
Ouais, ce qui doit pas arranger les choses. Donc voilà, c'était une petite anecdote, une petite histoire qui est assez rigolote avec ce grand-père qui sera rentré dans l'histoire et pas que dans l'histoire visiblement.
Oh, ça fuse ce soir, ça fuse.
Moi, ça me paraît être une chronique intéressante et je propose qu'à chaque épisode, maintenant, on retrouve Chris qui nous raconte la vie d'un village de France.
Oui, dans le prochain épisode, le village des gens qui ont 3 pieds. Vous allez voir, c'est vraiment étonnant.
Le village des sans-orteils.
Bah voilà, c'était vraiment super comme sujet pour commencer l'émission. Vraiment.
Non mais plein de petits sujets comme ça, légers, c'est ce qu'on appelle l'anecdote de la machine à café. C'est ça que veulent les gens, tu vois. Ils apprennent des choses, c'est distrayant et ils peuvent en reparler. Parce que bon, quand t'écoutes les premiers épisodes, que tu revois des gens, des collègues et tout, tu peux pas dire « Ah bah dis donc, tu devineras jamais où est-ce que Matt il a fait caca !» Donc ça c'est nul, ça sert à rien. Alors que si on leur dit « Ah bah dis donc, t'as déjà entendu parler de cette histoire du village où tout le monde saigne du nez ?» Là, du coup, c'est plus intéressant pour les gens.
Du coup, la prochaine étape, c'est que Matt aille chier dans le village où tout le monde saigne du nez. Je pense que ça serait vraiment le summum de cette émission.
Eh, dis donc, Michel, tu connais la crypto-monnaie ? Non ? Ben attends, j'ai écouté un super podcast, j'ai rien compris, je vais t'expliquer.
Bah, ils ont compris, les gens, normalement.
C'est vrai. Peut-être.
C'est moi qui ai rien compris parce qu'ils ont changé des trucs, ils ont brûlé des fuses, ils ont fait des trucs avec des... Alors là, moi, je suis largué. Tout le monde gueule alors que moi,
ils
quand tu m'as expliqué, j'ai compris que c'était
déflationné,
mieux.
Je comprends plus. Ils ont brûlé
ils ont
des
cassé, ils ont cassé l'Ethereum, ils ont annulé des trucs. Et à la fin, ça va valoir plus cher, alors les gens, ils sont pas contents. Et c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe, Yanda? Puisque tu lances ton propre sujet, qu'est-ce qui se passe, Yanda? Qu'est-ce qui s'est passé?
Mais non, c'est l'article donc que tu m'as partagé hier ou avant-hier, il parle de la mise à jour d'Ethereum, puisque Ethereum depuis un bon moment maintenant, puisque ce sont des gens qui prennent leur temps de façon à faire les choses bien, avait annoncé passer en version 2.0 et que ce changement de version allait apporter beaucoup d'évolutions et dont notamment un changement assez important dans le fonctionnement de cette crypto-monnaie. Et c'est-à-dire que elle allait changer, si vous avez suivi, de la méthode de preuve de travail, qui est donc toute la partie de minage, à une preuve d'état, qui est donc plus écolo et qui engendre beaucoup de choses et qui fait que, en gros, sur un système de proof of work, donc preuve de travail, les mineurs, lorsqu'ils donc réussissent un minage, récupèrent une partie en récompense de la nouvelle monnaie qui est injectée dans le réseau. Sur un proof of stake, on est sur un fonctionnement différent et les mineurs, en cas de minage réussi, récupèrent un petit peu moins, puisque souvent une partie de la somme injectée en cas de minage réussi est brûlée, c'est-à-dire disparaît en fait, de façon à conserver de la valeur. Donc forcément, les mineurs ne sont pas super enchantés de ce changement de paradigme.
Oh, ça va finir en grève comme dans Germinal, ça.
Exactement. Et, yes. et du coup, c'est ce qui fait que ça râle un petit peu. Mais sur le long terme et d'un point de vue un petit peu plus global, c'est une bonne chose qu'une crypto comme Ethereum passe, je trouve, sur ce type de travail, en fait. Voilà.
Parce que pourquoi ça va à la fin valoir plus d'argent. Parce qu'on va faire moins d'Ethereum et donc leur valeur va augmenter, c'est ça?
Alors il y a ce principe-là, effectivement, parce que sur du déflationniste, tu as quand même une valeur qui est potentiellement plus fiable et qui peut plus vite valoir plus cher. Mais tu as aussi le fait que en faisant ça, en fait, ça incite à faire moins de transactions, puisque bah forcément, en fait, à chaque fois que tu fais une transaction, tu mines et donc tu injectes de nouveaux Ethereum, mais tu en détruis aussi une partie. Et donc ça permet, avec plein d'autres éléments, mais ça permet à participer à une meilleure gestion du réseau, puisque il y a quelques années, le réseau Ethereum s'est trouvé congestionné, c'est-à-dire bloqué, puisqu'il y avait trop de transactions en même temps. Et donc les mineurs n'avaient pas le temps de réussir leur minage et donc de faire le chiffrement des transactions. Il y en avait trop en même temps. Donc tes transactions mettaient très longtemps à se faire, ce qui n'est pas du tout intéressant pour une crypto-monnaie. Et en plus de ça, elle coûtait très cher puisqu'il y avait de très gros frais qui étaient facturés. Donc le fait de passer en proof of stake, ça permet aussi d'avoir une meilleure gestion du réseau.
Donc je prends un exemple concret, je suis marchand d'armes, je veux échanger un peu des produits avec des clients, je peux enfin recevoir mes paiements dans un délai correct.
C'est ça, tout à fait.
Est-ce que c'est pas aussi une façon de peut-être de limiter la spéculation, qui est quand même un truc assez assez fort en matière de crypto-monnaie, et de plutôt encourager le placement? C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des gens qui achètent, qui revendent dès que ça monte un peu pour gagner des clopinettes à chaque fois, le but c'est pas plutôt d'avoir des gens aussi qui vont acheter de la crypto-monnaie mais qui vont laisser peut-être un peu vieillir parce que justement ça devient plus stable et t'as moins de chances de voir le truc partir en couille.
Oui, après alors oui, mais il y en aura toujours. Il y en aura un peu moins, mais il y en aura toujours, parce que si tu prends l'exemple de Bitcoin, qui donc lui est à l'inverse et qui est donc ce qu'on appelle une monnaie inflationniste,
encore que pas vraiment, mais bon. Bitcoin, il y a un nombre maximal qui a été défini dès le départ de Bitcoin qui seront mis en circulation, qui est, je crois, de 21 millions. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ce nombre de Bitcoin en circulation sera atteint, il y aura plus de minage, ça sera terminé, il y aura plus de nouveaux Bitcoins. Donc tous les Bitcoins seront en circulation. Donc à partir de là, forcément, le Bitcoin prendra de la valeur. Donc tu as des gens, quelques-uns, qui ont acheté un petit peu de Bitcoin et qui le gardent jusqu'à ce que ce stade de 21 millions en circulation soit atteint.
Et on en est à combien là?
Je sais pas.
3.
Je sais pas exactement. Non, on est il faudrait regarder parce que je voudrais pas dire de bêtises.
Attends. Nombre de Bitcoin. Vas-y, continue de parler.
Mais tu peux même savoir, il prévoit hein, du coup avec les transactions actuelles etc., il prévoit à quand sera atteint ce stade de 21 millions de Bitcoin.
À l'heure actuelle, il existe 18 780 400 non 18 bon 18 millions quoi.
Il y en a beaucoup déjà.
Si c'est ça, 18 780 468,75, c'est ça.
Ouais. Et moi j'en ai un tiers de millième.
Eh, c'est mieux que zéro.
Bientôt la richesse.
Bah c'est 13 balles, vous rigolez.
Donc
quoi,
18 millions sur 21 et nombre de je vais mettre en tout pour vérifier, mais il me semble que c'était ça effectivement. 21 millions, c'est ça. Bah on arrive au bout.
C'est ça.
Mais c'est de plus en plus long, non? Plus ça.
Ben oui. C'est de plus en plus long et il y a de moins en moins de nouveaux bitcoins injectés à chaque transaction réussie, à chaque minage c'est réussi. Ça. De c'est façon ça. À ce que ça dure effectivement un petit peu.
Voilà. Mais, que ça dure jusqu'au moins les 64 prochains rapports du GIEC. Et donc, qu'il n'y ait plus besoin de miner puisqu'on sera tous morts. Très bien, parfait.
C'est pas totalement faux, ouais. Mais pour juste faire la différence, parce que je disais que Bitcoin était une monnaie inflationniste, mais en fait non, pas tant que ça. Une monnaie inflationniste, c'est ce qu'était Ethereum avant, et c'est ce que sont nos monnaies traditionnelles. C'est-à-dire que ce sont des monnaies où il n'y a pas de limite sur la circulation. C'est-à-dire que l'euro, bah aujourd'hui, s'il y a besoin d'injecter de nouvelles pièces de monnaie ou de nouveaux billets, bah la banque centrale donne son go, hop, on fabrique des nouveaux billets et hop, il y a des nouveaux euros en circulation.
D'ailleurs, ça c'est abusé, parce que moi, quand j'ai besoin de 500 balles, si je les imprime, personne ne les prend. Alors que la banque centrale, elle veut imprimer 500 balles, elle le fait, c'est bon quoi.
Voilà, c'est ça.
Comme par hasard.
C'est ça.
Quelle honte.
Donc c'est des monnaies qui n'ont pas de limite en termes de quantité physique dans la circulation, puisque bah, un organisme, en plus c'est ultra centralisé, effectivement, un organisme peut dire « Oui, allez-y, injectez-en un peu des nouveaux là, mettez-moi quelques piécettes pour les gueux, que les prolos s'amusent, hein, qu'ils puissent acheter du pain tant qu'on peut faire tourner les fours. » Et des masques. Et du gel hydroalcoolique. Et surtout,
ça fait un peu court là, Yanda. Non, attends. Ça va être, sinon les gens ils vont pas être contents.
Ah,
les gens ils vont dire ouais.
Prolo alcoolique, je trouve ça va.
Mais il a failli dire la fin. Ah. Non, c'est après. D'abord, faut que tu nous expliques, parce que après on va dire
encore
donc on peut plus gagner de l'argent, parce qu'on peut plus gagner de l'argent avec les crypto-monnaies. Donc bah à ce moment-là, autant fabriquer des contenus, tu vois. Genre, moi j'ai vu que sur Switch par exemple, je pouvais jouer aux jeux vidéo et gagner de l'argent. C'est intéressant.
Ouais, c'est vrai. Ah, sur Twitch, là, c'est le grand bal de combat, là. C'est maintenant ou jamais qu'il faut se lancer, quoi. Twitch est en train de découvrir, enfin.
Je viens de comprendre que c'était une transition.
Ouais. Elle était très belle.
C'était compliqué.
Oui, mais elle est belle. Elle est belle. L'arrivée est belle, tu vois. Le geste technique était pas simple. Mais, on a eu un effet brossé et c'est passé. Amazon a décidé de vraiment opter pour la rentabilité sur les streamers Twitch et puis
Amazon ils ont acheté Twitch.
C'est étonnant ça.
Ah oui, Amazon a, Twitch c'est Amazon hein.
D'accord.
C'est pour ça que
depuis déjà un certain temps ouais.
C'est pour ça que depuis
je fais celui qui ne sait pas.
Tu as la possibilité de soutenir les créateurs de contenu sur Twitch lorsqu'ils sont partenaires Twitch en achetant ce qu'on appelle un sub, qui est un abonnement dont une partie revient au créateur. Et lorsque tu as un abonnement Amazon Prime, tu as la possibilité de faire un sub inclus dans ton abonnement Prime par mois au créateur que tu souhaites.
Et en fait, ce qui a changé là, il y a récemment, à la date à laquelle nous enregistrons cet épisode, et qui a créé un petit branle-bas de combat, c'est que en fait, Amazon a décidé et a mis en place un changement de politique tarifaire sur le prix du sub dans quelques régions et notamment en Europe. C'est-à-dire que jusqu'à présent, un sub pour un créateur de contenu Twitch, c'était 5 balles. Tu payais 5 balles et tu achetais du coup un sub pour un mois à un créateur de contenu. Sur cette somme, le créateur de contenu, selon son niveau de partenariat, récupérait soit la moitié, soit 70%.
Ton niveau de partenariat, c'est la quantité de stream que t'as fait, la qualité de ta chaîne.
Je crois que c'est ça. Le nombre de followers, le nombre de subs. Il y a plusieurs choses, mais il y a effectivement la quantité de stream que tu fais. Il y a plein de paramètres qui rentrent en compte.
Plus t'es gros, plus tu touches.
Exactement. Quand tu démarres, t'es en 50-50, et après un certain stade, tu as atteint le palier où tu as un contrat 70-30, 70% pour le créateur et 30% pour Twitch. Et donc, le changement tarifaire a fait que le sub est passé de 5 euros à 4 euros. Donc, ce qui est cool pour les utilisateurs, puisque 1 euro de moins, c'est sympa. Potentiellement, ça te permet de, si tu veux, pouvoir plus facilement soutenir plusieurs créateurs et tout, et c'est génial. Là où c'est un petit peu moins rigolo, c'est quand tu regardes derrière, au niveau des créateurs de contenu, puisque en fait, Twitch a dit « Ah non, mais attendez les gars, les 1 euro qu'on enlève là, on va pas les enlever de la... »
C'est sur votre marge.
Bah ouais, évidemment. C'est pas sur la com d'Amazon, c'est sur la com du créateur de contenu. Vous rigolez ou quoi? Donc voilà, première chose. Et après, ils ont été grands seigneurs, ils ont dit bon écoutez, on comprend que ça peut représenter une baisse de revenus somme toute assez importante, donc ce qu'on vous propose c'est que on va calculer par rapport à la durée de stream que vous avez fait sur les 3 derniers mois la moyenne, et si vous streamez dans le mois qui arrive suffisamment de temps pour arriver à au moins cette moyenne de stream, vous êtes éligible à peut-être une réévaluation de vos commissions, et Twitch prendrait en charge à ce moment-là la différence. Sur le papier, c'est un beau geste, grand seigneur, sauf que certains créateurs de contenu se sont retrouvés avec des quotas de stream absolument délirants. Je pense notamment à...
Je vais streamer pendant 127 heures cette semaine.
Alors, t'es pas loin de ça, parce qu'il y a Monsieur Karaté sur Twitch qui a posté du coup sa capture d'écran, et qui pour pouvoir être éligible, c'est-à-dire que c'est même pas garanti, c'est tu es éligible à ce que Twitch te dise « Ok, on prend en charge ».
Le mot important dans ce que tu as dit précédemment, c'était « peut-être ».
C'est ça, exactement. Mmh. C'est ça. Il doit streamer 188 heures.
Au secours. Au
et donc
secours.
Là, forcément, tu te
en
dis « Attends,
du coup ?»
Eh ben, dans le mois.
Jusqu'à la fin du mois,
ouais. Ouais, c'est ça. Attends, c'est sur le mois.
Attends, 188 heures.
Ça fait 6 heures et quelques par jour.
Ça fait un job à plein temps, quoi. Faut vraiment bosser tous les jours, streamer tous les jours.
Et sachant que comme l'expliquaient différents créateurs, lorsque tu fais du stream Twitch, il n'y a pas que le temps d'antenne quand tu t'en fais ton métier ou ton activité principale. Il y a énormément de choses à côté qu'il faut gérer, qui font que tu fais pas juste allumer ta cam et puis go, on va en live et puis c'est parti, quoi. Donc on se retrouve, ouais. C'est vrai.
C'est genre comme les vidéos YouTube, c'est pas genre
c'est
juste
ça.
Que tu te filmes chez toi. Genre
et
tu faut, ouais. Faut écrire des trucs, faut faire du montage et tout.
Tout à fait, c'est ça.
Trop compliqué pour moi.
Faut préparer, faut mettre en place les aspects
acheter
techniques.
Acheter les jeux vidéo, charger la manette, enfin tout ça quoi.
C'est dur ça.
Donc voilà, donc ça a été un peu le branle-bas de combat au niveau des créateurs de contenu, puisque c'est forcément beaucoup plus difficile. En plus de ça, maintenant d'arriver à générer des revenus viables pour une personne, puisque les commissions ont baissé. Et pour pouvoir être éligible l'éventuelle compensation de Twitch, tu peux te retrouver, selon ce que tu as fait sur les derniers mois, à devoir streamer comme un enculé pendant X heures par jour pour peut-être avoir la compensation.
C'est une expression, hein. Nous avons rien contre nos amis sodomites, hein. Vous êtes les bienvenus.
J'ai trouvé la catégorie piscine, mais j'ai pas trouvé la catégorie enculé sur Twitch.
Je me suis dit, ça va devenir gênant si quelqu'un relève le mot. Donc,
évidemment, c'est arrivé.
Excusez-moi, parce que comme je suis dans le sud, c'est le genre de mot qui remplace les virgules, tu vois.
Enculé.
Les virgules ou les points. Enculé.
Bien sûr. Bien sûr.
Elle est enculée. Bref, je ne vous ferai pas la blague. Voilà, ouais. C'était la, c'était la, la nouvelle Twitch. Donc après YouTube la dernière fois et la, la gestion du, de la diffusion de la culture auprès de YouTube, et ben Amazon et Twitch s'est dit écoutez, on fait déjà bien trimer nos salariés dans les entrepôts Amazon tant qu'il y en a pour l'instant.
On les fait et maintenant on va les faire streamer dans nos entrepôts Twitch.
Faudrait pas que les créateurs de contenu se la coulent douce, hein. On veut bien aller dans le sens des utilisateurs parce que encore une fois et tous le disent, hein, tous les créateurs de contenu le disent que d'un point de vue utilisateur, baisser de 1 euro le sub, c'est une très bonne chose évidemment. Le problème, c'est que ce qui se passe derrière est forcément imputé non pas à la maison mère, mais aux créateurs de contenu. Et là, c'est un peu plus gênant.
Quel monde formidable.
J'ai fini de parler. Sur ce, pouf, je disparais. De façon écologique, bien sûr, parce que je ne voudrais pas avoir de problème avec le GIEC.
Le GIEC.
Je retourne calculer mon temps d'émission de CO2 à l'année. Il y a un site qui le fait, qui est très bien. D'ailleurs,
et tu nous diras combien de d'émissions Twitch il faut que tu fasses du coup pour compenser ton temps d'émission à la.
Ah oh là là, pouf, c'est parti loin. Ah, il est vraiment parti.
Il a tellement aimé qu'il a tout coupé.
Ah, c'est génial ce qui se passe.
C'est oui, dommage, ça m'aurait intéressé moi de connaître mon taux d'émission à l'année.
Ah, sachant que pour ceux qui écoutent régulièrement cette émission, la semaine dernière, c'est ça, vous le savez, pour la dernière émission, nous avons été censurés par Google qui ne nous autorisait pas à enregistrer plus d'une heure d'affilée, donc on l'a fait en deux fois et voilà. Mais là, du coup, on est passé via autre chose, une autre plateforme, et du coup, bah Yanda vient de disparaître sous nos yeux. Mais c'est peut-être pas du fait de la plateforme, c'est peut-être de sa faute.
Il a peut-être été kidnappé par son frère diabolique. Qui sait?
C'est ça.
Qui sait ce qui s'est passé?
On va voir Yanda revenir avec une fausse moustache.
Oui, c'est moi le frère Yanda.
C'est moi Yanda.
Bon, du coup, en attendant, on regarde un truc sur Twitch. Vous regardez les trucs? Vous êtes abonné? Il y a des chaînes que vous suivez régulièrement sur Twitch ou des choses comme ça?
Non, ça dépend des période, enfin il y a quelques temps je l'ai fait un peu, mais globalement non. Je regarde un peu mon patron parce que il y a vraiment Yanda maléfique.
Il y a vraiment Yanda maléfique. Putain,
ouais,
la
c'est
vache.
Ça. Ok, formidable. non, je suis un peu mon patron, hein, donc pour ça me tenir un peu au courant de ce qu'il fait quand même et du boulot que je vais avoir après à traiter. Sinon, très très peu. Je regarde pas mal de replays par contre. De replays de Twitch, genre Mister MV, Antoine Daniel, tout ça. Mais sur Twitch en lui-même, pas des masses. J'avoue, j'ai pas cette culture-là en fait. J'ai même essayé moi-même de streamer et j'ai des idées, mais il me faudrait beaucoup de temps en amont justement pour les préparer.
T'as streamé des montages vidéo notamment?
Ouais, voilà, j'ai streamé ça, c'était marrant 5 minutes, mais en vrai ça me saoule un peu. Quand je bosse, j'aime bien être concentré sur mon travail et pas devoir gérer un live en même temps en fait. Donc voilà. Et puis pareil, je me pose toujours les mêmes questions sur l'impact écologique du stream et je me dis que rajouter encore une personne en plus dans ce réseau-là qui pollue énormément a priori, autant ne pas le faire quoi.
C'est peut-être l'avenir du télétravail puisque on travaille chez nous puis nos patrons ils veulent savoir si on travaille et tout. On pourrait tous travailler en live sur Twitch pour que nos patrons viennent checker qu'on est bien en train de travailler. Ça serait formidable.
C'est ça. L'avenir a l'air très beau. Dit comme ça.
D'ailleurs, pour vous faire plaisir, je vais monter cet épisode en live sur Twitch. Voilà. Et là, le Matt du futur est en train de se dire, pendant qu'il est en train de monter l'épisode, en train de se dire, ah merde!
Tiens, j'ai oublié.
Je vais streamer!
Connard!
J'ai oublié.
D'ailleurs, oui. en parlant d'Antoine Daniel, je reviens juste sur un truc, je sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir, sinon, je vous invite à le faire, et ainsi que nos auditeurices, aller sur YouTube et à regarder il me semble que c'est un replay Twitch en plus, de DFG,
Dr. Feelgood.
Ah oui.
Qui a reçu du coup Antoine Daniel, qui était forcément extrêmement attendu.
Ouais.
Et en fait, c'est une, ça dure 2 heures. Et en fait, le concept de l'émission,
alors,
c'est
voire 3 pour certains invités même. Et okay. Antoine Daniel, je me demande si ça atteint pas les
c'était
quasiment 3 les 3 heures.
Aussi,
ouais.
Coup, ouais.
Quasiment. Ouais.
Et le concept de l'émission, c'est qu'en fait, DFG joue le rôle d'un psy entre guillemets, comme il le dit lui-même, hein, ça n'a rien de médical ou quoi. Et son invité vient pendant la durée de l'émission et parle de lui, de son activité, de sa vie en général, etc. Et c'est extrêmement intéressant par rapport à Antoine Daniel.
Le début commence toujours par son parcours, d'où tu viens, et donc en général, j'ai vu 4 interviews, les 4 remontent très très loin. Si c'est ça, il commence par quel est ton premier souvenir,
c'est
donc
ça.
Forcément ça remonte
ouais.
super loin. Et Antoine Daniel, c'est un peu grâce à cette émission que j'ai été réconcilié avec le personnage et qu'en fait maintenant je trouve que c'est quelqu'un qui me semble être une très bonne personne. J'ai regardé aussi celle sur Mister MV qui était passionnante, ouais. celle sur Zerator aussi qui était sympa, et Zerator je le connaissais pas, donc j'ai pas fait que des gens que je connaissais de base. J'ai aussi regardé des gens que je connaissais peu, et voilà, donc c'était vraiment intéressant. Et la dernière c'était avec Bagheera Jones qui était sympa aussi. Et les autres, je m'en fous un peu, donc j'ai pas écouté. Mais ouais, c'est une émission très très intéressante. Et même, c'est ça, même si on connaît pas les gens. Enfin, je sais pas. Moi, j'aime bien entendre des parcours. Enfin, ouais, des parcours de vie en fait, et comment ils en parlent. Et comment. Enfin, c'est vraiment, c'est très intéressant. Tu te retrouves forcément dans certains aspects des personnalités de chacun et chacune. Et en même temps, tu vois les parcours différents. Et enfin, voilà, c'est au niveau anthropologique même, je trouve ça assez sympa, quoi. Donc ouais, sur le divan, ouais, je crois que c'est ça l'émission.
Oui, c'est ça. Oui, exact.
Salut, c'est Matt du futur. Alors, vous l'aurez remarqué, évidemment, j'ai oublié de faire le montage de cet épisode en live sur Twitch. Et donc, effectivement, je me suis dit, oh merde, j'ai oublié. Bon, pour me faire pardonner, je vous colle dans la description de ce podcast et sur le Facebook de l'Estaminerde et sur le Twitter de l'Estaminerde les liens vers les vidéos dont parle Valentin, à savoir la conférence d'Antoine Daniel et le divan, l'analyse, tout ça. Bref. Les références sont sur twitter.com/estaminerde et sur facebook.com/estaminerde. Merci, bisous.
Tout à fait.
Exactement.
C'est très intéressant. À écouter comme ça pendant que tu fais autre chose, quoi.
Tout
ta
à fait.
Ta vaisselle, ton ménage.
Pourquoi t'étais fâché avec Antoine Daniel?
En fait, j'étais fâché avec Antoine Daniel pour les mêmes raisons qu'il était fâché avec lui-même. Et quand je me suis rendu compte de ça, ça m'a complètement réconcilié avec le bonhomme qui, en fait, parle de tout ce qu'il n'aime pas dans l'émission qu'il a fait connaître, c'est-à-dire What the Cut, de tous les problèmes que ça posait, et que il devait maintenir un peu ce rôle-là de connard, on va dire, quoi, et de mec qui se moque des gens et tout ça, chose que il le dit, il n'aime pas faire, ce qui est peut-être un peu étonnant, et on peut se dire que c'est pour se donner le beau rôle, mais en fait, après l'avoir écouté parler pendant 3 heures, je n'en suis plus si sûr.
Ouais.
Et donc, du coup, le mec s'est vachement remis en question, et les gens qui se remettent en question, bah, j'aime bien ça. c'est des gens qui sont, de fait, du coup, ouverts d'esprit, et qui ont tendance à l'introspection, donc c'est bien. Pareil, Mister MV aussi, il en parle, il a eu alors, avec un parcours de vie différent, mais, pareil, il s'est remis en question sur 2-3 choses aussi. Je ne vous spoil pas du coup, mais voilà, c'est vraiment intéressant. Et donc Antoine Daniel a fait tout un cheminement de pensée, tout un cheminement même dans sa vie sur le web et son image sur le web aussi. Et c'est vraiment intéressant à écouter. Enfin voilà, toutes ces personnalités-là qui ont du succès quasiment du jour au lendemain et qui doivent l'entretenir et qui sont mal à l'aise avec leur image au bout d'un certain temps. Enfin, même là-dessus, voilà, c'est YouTube, encore une fois, c'est très récent, c'est un peu comme la télé, mais pas trop non plus. Et tu vois que, voilà, être sur le devant de la scène, et une scène particulière comme YouTube ou Twitch, hein, même, et être malgré soi victime de son succès, c'est avec des gens qui ont la tête sur les épaules et qui savent en parler, c'est toujours intéressant, je trouve. Donc voilà.
Voilà. Du coup, je me permets juste avant de dire à Matt ce que je regarde sur Twitch. Le cas d'Antoine Daniel. Alors, j'ai pas regardé encore cette interview, mais je l'avais mise de côté. Je trouve que, enfin, j'ai jamais été spécialement client de What the Cut, mais un peu à l'image de Squeezie, tu vois. Donc, je suis pas du tout client du contenu parce que ça me parle pas. Enfin, je suis pas le public visé. Antoine Daniel, c'est le genre de personne quand je le vois parler ailleurs, justement dans les interviews ou des choses comme ça, je trouve que c'est, ouais, c'est effectivement quelqu'un qui est assez intéressant et qui m'a l'air assez posé, tout comme Squeezie d'ailleurs, qui m'a l'air d'être un gars plutôt de bonne compagnie, voilà. Et je pense que pour le coup, ils font justement partie de ces gens. Tu parlais de recul et de, bah en fait, ils font partie des premiers à avoir percé comme ça sur Internet à ce niveau-là et avec cette ampleur-là. Et contrairement aux gens peut-être qui arrivent aujourd'hui et qui ont un peu des guides ou tu vois des recettes qui savent peut-être un peu comment il faut se comporter, bah eux c'était pas leur cas. Et du coup ils s'en sont sûrement pas trop mal sortis par rapport à plein de gens qui ont dû disparaître dans les limbes ou dans des situations dramatiques.
Il y a un autre truc par rapport aux médias, parce que je suis assez vieux pour avoir les deux expériences, et on minimise.
C'est vrai que t'es pas tout jeune quand même.
On minimise en fait beaucoup dans ces médias-là. Il n'y a pas que la création de contenu, il y a surtout que t'as le retour immédiat du public. C'est-à-dire que j'ai fait plein d'émissions de radio depuis longtemps sur lesquelles t'as aucun retour, et il y a des trucs qui sont nuls objectivement quand tu les réécoutes, mais il y a personne pour te dire bah écoute c'est nul et tout. Et donc si tu t'en manches dans un mauvais truc ou que enfin tu peux changer rapidement, en fait il y a personne qui va dire ah bah non refais ce personnage-là que tu avais fait et tout. T'es jamais prisonnier de ce que t'as toujours fait, puisque tu travailles un peu pour toi et pour les gens qui vont être autour, ton cercle immédiat, quoi. Le fait de produire du contenu sur internet, où du coup t'as aussi une voix montante pour entendre directement les réactions des gens qui vont consommer tes médias, ça change complètement la façon dont tu fabriques un truc, quoi. Tu fais une série qui a un ton particulier, si au deuxième épisode t'as que des trucs qui disent ouais ben non mais en fait non c'est nul il faut pas dire ça et tout, et en fait bah oui en fait c'est de la provoque, c'est pour ça que j'ai fait c'est une petite blagounette, c'est de la provoque en fait, il faut pas le prendre au premier degré, faut réfléchir un peu, ouais bah en fait non, et du coup ça te fait te remettre en question tout de suite, est-ce qu'il faut maintenir ce truc là et laisser le temps au ton et au format de s'installer, ou est-ce qu'il faut changer. Ça bouleverse aussi vachement la façon dont tu fabriques tes contenus en fait,
et
je crois,
et il y a l'attente du public qui est en général hyper intransigeant, et c'est notamment le cas, je pense à ça par rapport à Antoine Daniel, puisqu'il il l'explique très bien, où les gens l'attente sur les épisodes de What the Cut, les derniers notamment qui étaient plus longs, c'était juste délirant, et effectivement c'est des choses aussi qui ne pardonnent pas pour le créateur.
Comment il s'appelle l'humoriste qui avait arrêté et qui est revenu et que Valentin il aime pas là?
Tex.
C'est venu en plus tellement spontanément que c'est magnifique. Je ne sais pas qui
le,
tu
le mec qui faisait Salut les Geeks, Mathieu Sommet. C'est ça en fait, quand il est revenu, les gens étaient en mode ah putain tu reviens, c'est super et tout. Et en fait il est revenu et c'est pas ouf. Du coup bah c'est un peu il y a un truc dans l'attente en fait, dans la réaction de ce truc là, c'est-à-dire qu'il a proposé quelque chose de différent à moi, oui, et il a proposé quelque chose qui était différent de ce qu'il avait pu faire avant, sans juger bien ou pas bien, tu vois, et du coup comme ça correspond pas à l'attente, les retours ils sont tendus, quoi, bien tendus. Tu l'aimes bien en fait?
Non, en fait, j'ai jamais vraiment regardé ce qu'il faisait. Le peu que j'ai regardé, je trouvais ça sympa sans plus. Voilà. Mais après, il y a plein de choses qui sont sorties sur le bonhomme qui ne me font pas plaisir du tout et qui font que j'ai vraiment pas envie de m'intéresser à lui. Mais voilà.
Comme ces dernières vidéos qui sont sorties et qui ne font pas plaisir, ouais, et qui ne te donnent pas envie de t'intéresser à lui. D'accord.
Tout à fait. Tout à fait. Pour finir, avant que Chris, parce que Chris trépigne d'impatience pour nous dire ce qu'il regarde sur Twitch, je finis.
Non, je vous écoute religieusement.
Je finis vite fait sur Antoine Daniel parce que je viens d'y repenser. En fait, il parle dans l'émission là, sur le divan. Il parle du moment où en fait ça a basculé dans sa tête, où il s'est dit qu'il fallait vraiment qu'il change d'état d'esprit et même qu'il fasse quelque chose vis-à-vis de What the Cut et tout ça. C'est quand il a fait une conférence dans je ne sais plus quel salon et où en fait ça a été un énorme moment de solitude pour lui. Il explique pourquoi, mais voilà, je vais pas rentrer dans les détails. Et il se trouve qu'en fait l'algorithme YouTube m'a proposé derrière et m'a mis automatiquement en lecture, donc j'ai même pas fait gaffe, un extrait de la conférence, mais surtout de lui qui regarde la conférence et qui met pause et qui dit bon bah là vous le voyez pas, du coup j'ai mes lunettes de soleil et tout, mais ça a été un moment terrible, j'étais pas bien parce qu'il vient de me poser la question, et puis voilà, et c'est super intéressant à regarder parce
c'est
que
violent.
Entre ce que lui donne,
c'est pas très clair par contre là, tu vois,
alors
j'ai du mal à suivre.
Il a fait une conférence en Suisse, où en gros il répondait aux questions devant des centaines, ouais, la salle avait l'air énorme, de personnes qui un micro circulait et les gens lui posaient des questions. Alors what the cut, du coup est-ce qu'on va revoir machin, est-ce que t'as écrit le prochain, est-ce que machin, et t'as plein de gens qui lui posaient des questions hyper gênantes en mode est-ce que je peux venir sur scène te faire un câlin.
Ouais, c'est parti en couille de fou quoi,
et c'est parti en couille t'avais des questions hyper bizarres, et donc on va pas spoiler la question qui l'a mis mal, mais effectivement t'as un mec à un moment qui fait sinon Anton Daniel, s'il se passait ça là dans quelques minutes là dans la salle, et la question est vraiment glauque, et donc voilà, Antoine Daniel est obligé de répondre et de réagir vis-à-vis de ça, mais avec son personnage de What the Cut, on va dire. Et donc moi, ce que j'ai vu, c'est une vidéo d'un live Twitch qu'il a fait, où en fait il a regardé cette conférence là qui a été filmée. Et de temps en temps, il appuie sur pause et il dit bon bah là vous voyez la question qu'on vient de me poser, et bah là à ce moment-là j'étais vraiment pas bien parce que ceci, parce que cela, et que je savais que derrière il allait avoir une autre question encore pire, et que voilà, j'étais en pleine gueule de bois parce que patati patata. Bref.
Ouais, puis là c'est le mec qui parle, pas le personnage pour le coup.
Ouais, et là c'est le mec qui parle, pas le personnage, et surtout qui parle des années après, c'est 3 ou 4 ans après, et où il a déjà fait son travail de remise en question et tout ça, et où il le dit donc dans sa dans l'émission sur le divan là, il dit que ça a été un des points de basculement de sa carrière, justement c'est cette conférence là où il a pris conscience qu'en fait l'image qu'il renvoyait n'était pas du tout ce que lui était quoi, et que il fallait vite changer ça. Voilà, donc par contre je ne saurais pas comment vous dire de retrouver, enfin comment vous pouvez retrouver cette vidéo, mais vous devez taper Antoine Daniel conférence
à mon avis ça doit ressortir dans les
Moi je pense que le mieux c'est de te suivre sur Twitter, parce que tu vas le poster sur Twitter, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de V pour Valentin, évidemment.
Absolument. Et ben
c'est gratuit, il y a pas de sub.
Il y a pas de sub pour l'instant. Pour l'instant, ça va viendre sur Twitter,
Mais il peut prendre vos battes.
Ouais. S'il est créateur brave, évidemment.
Ouais.
Vous pouvez taper la pire conférence de ma vie, Antoine Daniel, sur Google, vous tomberez dessus. Voilà.
Ok, donc Valentin ne veut pas de followers sur Twitter.
si, absolument, mais je vous mettrai le lien. Oui, si vous me le demandez, je vous mettrai le lien, parce que sinon j'y penserai pas.
Donc demandez-le-nous,
Valentin, mets-le-nous.
Oh oui, je vais vous le mettre.
Implorez-le. À genoux, mécréant.
Avec ton son qui vient du fond des âges, c'est encore plus drôle,
c'est ça. Avec l'écho, tu sais, la réverb de la pièce.
Parfait. Chris, pardon, non, tu ne t'appelles pas Twitch.
Appelle-moi
du tout.
Tweet. Appelle-moi
qu'est-ce Twitch. Qu'est-ce que tu regardes sur Twitch, dis donc?
Moi, je regarde Punky de temps en temps. Alors, j'ai un problème, c'est qu'en fait, les gens qui Twitch le font plutôt pour que les
le font tard.
Les personnes qui ont des horaires de travail classiques ou éventuellement sont disponibles le week-end regardent Twitch le soir à la place de la petite série de TF1 ou le week-end pendant l'heure du goûter. Or, moi, ne travaillant pas à un rythme classique, puisque étant évidemment
employé d'Elon Musk.
Non, garde-chasse.
Putain, j'allais la faire, en plus, j'allais dire exactement celle-là.
C'est vrai,
putain, je te jure. Ah ouais, franchement.
On allait vraiment dévoiler son vrai métier.
Ouais, c'est vrai.
Bon, j'ai garde-chasse dans le Gévaudan, mais bon, souvent, on a des petits problèmes en plus avec des animaux, là. Bon, bref.
Moi, j'allais dire Sam. Il bosse le week-end, il raccompagne, c'est lui qui conduit et qui boit pas.
C'est moi qui bois pas. Tu vois quand même que pour juste dire ce que je regarde sur Twitch, ça part très 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 loin.
Et t'as toujours pas pu le dire en plus. Ça fait.
Du coup, je regarde Punky. Il y a Ace Modé qui, pendant qu'on enregistre cette émission, fait un live de 24 heures pour essayer de financer un petit peu son projet.
Du coup, je suis déçu d'enregistrer ce soir. J'aurais bien voulu suivre.
Moi, je suis passé vite fait tout à l'heure. Je regarde aussi un copain de Punky qui s'appelle Kelios et qui fait tous les week-ends un truc qui s'appelle la grosse récré, la grande récré, la giga récré, un truc comme ça, c'est une récré en tout cas, où il regarde de vieilles émissions, genre des vieux épisodes de Fort Boyard, des vieux épisodes du Juste Prix, il y a des trucs complètement pétés. L'autre jour, je suis tombé sur une rediff du Juste Prix qui regardait. Et franchement, c'était what the fuck, quoi, le Juste Prix, en vrai. Je me enfin, tu vois, moi, j'étais tout gamin, je m'en souvenais pas. Et
moi, je me souviens du tyrolien, cool. Moi, c'est tout.
Ouais, mais oui, le tyrolien, tout le monde aimait ça. Et donc, ouais, il repasse pas mal de trucs assez chouettes. Et puis après, voilà, de façon complètement aléatoire, ça m'arrive de regarder d'autres trucs. Mais je ne suis pas un gros consommateur de Twitch. Je regarde Twitch par-ci, par-là, mais j'ai pas de rendez-vous régulier, tu vois. Papa Blender aussi, Papa Blender, qui fait pas mal de trucs avec des jouets le dimanche matin, qui sont assez cool.
Il fait avec des trucs avec
ils
des
ont
jouets.
Monté une... ouais, il fait des trucs avec des jouets, tout à fait. Ça s'appelle le Café Blender.
Ils ont monté un truc ensemble avec Archeo Toys
qu'ils ont appelé Toy Game, ouais, French Toy Game sur les réseaux sociaux, je pense, ouais, il me semble. Où ils débriefent un petit peu, ils ont fait notamment un débrief de la nouvelle série, enfin de la nouvelle saison des nouveaux épisodes des Maîtres de l'Univers sur Netflix. Ils ont dû recevoir Monsieur Garcin récemment aussi, je crois, pour parler un peu de ses jouets, de ses collections de jouets, de ses couvertures de comics. Voilà.
Et du coup, puisque t'en parlais, j'ai mis le live de Ace Modet, du coup, sans le son, puisque, bah, je vous écoute vous. Et là, il était en train de parler dans son coin, visiblement un peu virulent, et il vient de se lever et de partir. Donc le mec a peut-être fait un rage quit tout seul pendant son propre live. Ce qui serait formidable. Ah non, il revient. Oh, puis il sourit maintenant. Oh, c'est
ça arrive, hein. J'ai vu des gens craquer en live, déjà, ça arrive. Des gens qui sont vraiment dégoûtés. Je crois qu'on
oui,
a déjà
Sardoche,
parlé,
on
mais...
connaît, hein, c'est bon.
De, non, mais justement pas ce genre de personnage.
Mais c'était
là, malheureusement.
Sûr.
Je peux pas taper sur mon bureau, je suis désolé.
Mais pas ce genre de personnage, mais des gens qui sont vraiment dégoûtés parce que ils se donnent à fond, tu vois, et ils se retrouvent à streamer devant une personne ou devant genre même des fois zéro personne, et qu'en fait c'est dur psychologiquement aussi parce qu'il faut pas oublier quand tu produis du contenu comme ça, t'attends du retour, et comme dit Matt, c'est du retour en direct, et donc c'est pas genre tu postes ta vidéo puis bah une semaine après il y a 3 vues dessus, tu fais ouais. Ouais, y a pas grand monde qui l'a vu. Que là, c'est en direct, et tu te dis, je vais parler d'un truc que j'ai trop kiffé, ou je vais jouer à un jeu que j'aime bien, et y a personne qui regarde. Et y a des gens qui le vivent effectivement très très mal, ce que je peux comprendre, hein, c'est pas en disant, ah, vous êtes nul, vous êtes soupolé. Non, pas du tout. Mais ouais, c'est, y a des gens qui craquent en live et qui lâchent tout en disant, bah, c'est bon, j'arrête de streamer, je me casse parce que personne regarde, quoi.
Bah, ouais. Et puis t'as ton compteur en perma, enfin, tout de suite, en instantané, c'est ce que je dis. Quand t'écris une saison d'une émission de radio, bah moi je sais pas si elles ont été écoutées ou pas, tu vois, les trucs que j'ai fait. Je pense pas, hein, vu le moi, l'impact.
Puis genre la saison de l'hiver peut être écoutée l'été, tu vois, tu sais pas.
Ouais.
Et petite blague.
Si c'était bien.
À base d'almana.
C'était voilà. À base d'almana. L'almana.
Sur fond d'almana. Drame sur fond d'almana.
Ça c'est Batman mais... Halloween, non?
Il y a beaucoup de streamers en fait, dès que tu traînes un peu qui où tu vois qu'il y a moins de 10 personnes qui sont dessus, quoi. Donc faut vraiment avoir le moral en fait
pour, la majorité des streamers ont pas grand monde, même ouais. Des chaînes parfois très suivies ont en fait que si je puis dire quelques dizaines de personnes, ce qui est assez peu par rapport à des chaînes qui pètent des records, tu vois, les chaînes qui font des centaines voire des milliers de personnes à la fois, elles tiennent vraiment dans un mouchoir de poche, quoi, par rapport à des centaines de gens qui ont effectivement du mal à avoir 4-5 personnes à la fois. Moi le premier, le peu de fois où je vais sur Twitch, après je suis pas hyper actif, donc forcément c'est très ponctuel, mais si j'ai 10 personnes en même temps, je suis content, tu vois.
Je crois qu'il y a un pourcentage très faible, mais je l'ai plus en tête. Il y avait eu un article qui avait été publié il y a un petit moment de ça. Il y a un
fact checker.
Il y a un très très faible.
Et là, il y a une sirène qui démarre.
Un très 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 faible pourcentage de streamers qui dépasse les 100 viewers. Mais c'est genre c'est ridicule à l'échelle de l'ensemble des streamers sur Twitch.
Ouais.
Il y en a très peu, je crois. C'est même pas 5%, un truc comme ça. C'est vraiment. Donc tu te rends compte qu'en fait la très très grande majorité des gens sur Twitch, ils streament pour 10 personnes, quoi.
Après, tu vois, je pense que là, ça rejoint ce que je disais. Moi, mon problème, c'est que je suis assez peu dispo à l'heure où les gens streament majoritairement. C'est-à-dire, on va dire entre 17 et 23 heures, j'en sais rien, tu vois. Et du coup, je vais pas forcément aller voir les replays sur Twitch, comme je pourrais aller voir des, genre. Il y a des vidéastes que je suis, Punky, Guillaume Cassard, des mecs comme ça, quand ils sortent une vidéo, je me la mets de côté dans mes favoris et je sais que j'irai la voir après, même si là j'ai pas le temps de la regarder maintenant. Alors que quand Punky lance un live, si je suis pas devant mon PC, je vais pas aller voir le live, tu vois. Et du coup, je pense que ça joue aussi ce côté, enfin, le live a des avantages et des inconvénients, spoiler, et ce côté, enfin voilà, les gens sont pas forcément dispo à l'instant T, tu peux pas forcément mettre le son de ton téléphone, enfin tu vois, il y a tous ces trucs là qui vont jouer quoi.
Il y a un truc qui est rigolo, c'est que quand les contenus se sont démocratisés sur Internet avec notamment l'avènement de Dailymotion, souvenez-vous, puis de YouTube, mais l'arrivée des podcasts et tout ça, on est aussi arrivé sur du contenu, et puis après c'est ce qu'a fait la SVOD, Netflix et tout, on est arrivé sur des contenus qui étaient dispo en permanence, et c'était plus à toi d'attendre le contenu, c'est le contenu qui t'attendait, et tu pouvais choisir de le consommer un peu comme quand tu voulais. Ce qu'apporte Twitch, c'est aussi un retour à cette logique de flux, et donc tu vas finir par avoir des rendez-vous avec un média que tu vas devoir être là au bon moment pour pouvoir le consommer quoi. Et ce qui est marrant, c'est que pendant un moment, on a expliqué aussi qu'Internet, puisque le contenu t'attendait, t'avais plus besoin d'attendre le contenu, Internet allait pouvoir marcher sur la télé et prendre la place de la télé. On s'est pas du tout posé la question de savoir si c'était le contenu des émissions qui faisait que Internet gagnait du terrain quoi. C'était la disponibilité du truc. Tu vois que même sur des logiques de il faut prendre rendez-vous et être là au bon moment, bah, on arrive quand même à construire des médias sur des plateformes qui sont spécifiques pour du live comme Twitch par exemple.
Mais après les plateformes de streaming y reviennent, puisqu'aujourd'hui tu vas voir que par exemple Disney Plus te sort un épisode des séries Marvel tel jour à telle heure pendant 8-9 semaines d'affilée, tu vois, donc en fait ils reviennent à ce système de rendez-vous, et si t'es pas là au rendez-vous, tu te fais spoiler l'épisode dans la demi-heure qui suit sur les réseaux sociaux quoi.
À cause de Twitter.
Bah évidemment, de toute façon tout est à cause de Twitter, on sait bien.
On parle des séries Marvel d'ailleurs ou pas? On en a jamais parlé.
Non. Bah si, on en a parlé. On a parlé de Vendavision.
Bah oui, on l'avait pas vu. on en a parlé comme dans des influenceurs.
Toi, tu l'avais vu et t'en as parlé, toi.
J'avais vu partiellement. Hein.
Et moi, on m'a fortement conseillé de les regarder. J'ai répondu à cet ami que il fallait que je trouve le temps, mais que voilà. Mais il m'a filé ses identifiants, donc j'ai plus trop d'excuses. Il faut vraiment que je trouve le temps, mais j'ai un peu la flemme. Par contre, il me les a vraiment bien vendus pour le coup. Même les séries.
Ses identifiants, il te les a vendus. C'est un peu exagéré.
Il te les a bien vendus du coup.
Il me les a bien vendus. Après, il aime beaucoup.
Non, justement,
j'allais dire l'inverse. Il aime beaucoup Marvel et il est pas con en plus. Et donc c'est, voilà, qu'une personne avec son intelligence me conseille fortement les trois séries Marvel et notamment Loki. Mais Loki, j'ai globalement que des avis positifs d'un peu tout le monde, donc voilà. Mais voilà, j'ai été un peu curieux et je jetterai peut-être un œil là-dessus, mais faut que je prenne le temps, c'est long quoi. Maintenant j'ai trois séries à rattraper d'un coup, donc relou quoi un peu quand même.
Moi je trouve que la construction qui est en train de faire Marvel Studios est hyper intéressante, parce qu'ils sont typiquement dans une logique de construction d'univers comme on le fait dans les comics, avec à la fois des événements majeurs qui ont été les événements des films au cinéma et qui ont fait bouger un peu les lignes, avec des séries, t'as souvent dans les comics des séries All-Star sur lesquelles on met des gros auteurs, et donc bah c'était plutôt les films indépendants de nos personnages en solo. Aujourd'hui t'as d'autres séries qui arrivent et qui sont plutôt les séries dans lesquelles il se passe des trucs qui sont pas inintéressantes, mais qui sont pas celles sur lesquelles tu mets les rockstars des comics, et c'est ce qui est en train de se développer sur le canal Disney+, donc avec WandaVision, avec Winter Soldier and Falcon, et avec Loki. Et il y a en plus un truc, c'est que dans les comics, t'as aussi plein de trucs un peu hardcore, un peu alternatif, un peu pour un public particulier. Et c'est ce qu'ils ont développé aussi avec MODOK, qui est une série qui est pas forcément canon avec l'univers Marvel, mais qui s'appuie dessus, qui est sur leur canal Star, qui pour le coup est de l'animation pour adultes. Ça ressemble beaucoup dans le look aux séries qu'il y avait en pâte à modeler sur MTV, où c'était des rockstars qui faisaient du catch. Je parle de c'était il y a 20 ans, quoi.
Ah bon? C'était il y a 20 ans déjà?
Bah oui.
franchement, je veux pas te faire peur, c'était peut-être même il y a presque 30 ans, mais enfin bon.
Merde.
Pour non. Te donner un repère temporel, Marilyn Manson était crédible. C'était à peu près dans cette période-là. Et du coup, il y a un vrai. C'est une série qui est déjantée, qui est un peu plus trash, un peu plus grossière, un peu plus que ce que tu parles dans les canons Disney. Et agglomérer tout ça, ça permet de te donner une vision assez globale sur un univers Marvel qui serait un univers développé uniquement en vidéo quoi. Mais cette construction avec différents tons, avec différents supports, avec différentes intentions, différents formats, ça commence à ressembler à la diversité et à une construction globale qu'on pouvait trouver dans nos univers de bande dessinée à l'époque, quoi. Et de ce point de vue-là, je trouve ça assez intéressant. Il manquerait plus qu'il y ait des jeux canons qui sortent et ouais. T'aurais un vrai univers multimédia, quoi.
Et comme dans les comics, t'es pas obligé de tout lire ou de tout voir pour comprendre l'arc principal, quoi. Donc voilà, moi, est-ce que je vais me faire chier à tout regarder ? En vrai, les films, pour le coup, j'en ai loupé aucun et je pense que ça va continuer comme ça. Les séries, j'ai pas forcément le courage, en fait, quoi.
Moi, pour le coup, je suis assez intéressé de voir, parce que en fait je trouve que les séries sont très souvent survendues dans, voilà, elles ont des qualités mais elles ont aussi beaucoup de défauts, et je suis assez surpris de voir qu'elles font quand même évoluer certains trucs. Il y a des personnages qui ont été introduits
c'est
dans
ce
les
qu'on
séries
m'a dit,
il y a
voilà,
des
ouais.
il y a des lignes qui ont un peu bougé, et je suis assez curieux de voir comment est-ce que ces trucs là vont réussir à être réagglomérés dans les films
sans que t'aies l'impression d'avoir perdu des informations si t'as pas vu les séries.
Et sans que t'aies du redondant,
ouais,
tu vois,
ouais.
Parce qu'on va pas pouvoir faire tout le temps du Deadpool avec un personnage qui regarde le spectateur à travers la caméra pour dire, ouais. Alors ce personnage-là ouais. qui vient d'arriver, il a été introduit comme ça et en fait c'est mon ancien pote, mais vous l'avez pas reconnu parce qu'il a changé. Et du coup, il y a un petit move qui va être assez intéressant parce que il s'est passé des trucs en dehors du cinéma et il va falloir l'introduire auprès des spectateurs. Ouais. Et je suis assez curieux de voir comment ils vont le faire.
Ouais. Ben pour le coup, la question s'est posée à une époque où comment Agents of S.H.I.E.L.D. était censé être canonique et tout ça machin avec l'agent Coulson, mais au final comme on l'a jamais revu dans les films, ben, la question ne s'est plus posée du coup. Mais
Agents of S.H.I.E.L.D. c'était canonique, ça courait derrière les films.
Ouais.
Il se passait quelque chose, il courait derrière pour ramasser les miettes.
C'est
ah,
ça. C'est un peu ça.
Le S.H.I.E.L.D. s'est écroulé. Ah, dis donc. Ah. C'était très sympa.
Mais ouais, donc je comme toi, je suis curieux de voir l'avenir des films Marvel. Ça risque d'être de toute manière intéressant, sachant que moi j'en attends plus grand chose. Je trouve que les phases 1, 2, 3, 4 sont très bien, enfin très bien, avec des différents levels de qualité, on va dire, mais que globalement voilà, ça suffit à lui-même. On peut s'arrêter à Endgame et c'est très bien. On voit ce que ça fait un univers partagé au cinéma. Paris réussi, parfait. Et maintenant, bah c'est que du bonus pour moi en tout cas. Quoi, je vais voir. Bon, bah écoute. J'apprécie de voir Far From Home, je me fais chier devant Black Widow. Bon, bah voilà, ça va dépendre des films, et puis voilà quoi.
Est-ce que tu attends Shang-Chi avec impatience ?
Non, mais par contre, je peux être agréablement surpris.
Parce
que j'en attends rien, voilà, donc ouais, c'est ça. tout à fait. Mais non, je l'attends pas du tout, mais je sais que j'irai le voir et que. Voilà, ça. Les Gardiens de la Galaxie, il y a plein de gens qui pariaient pas un copec dessus, et puis bah voilà, maintenant tout le monde les connaît, quoi, donc ça fera peut-être pareil avec Shang-Chi.
Pourquoi pas.
En tout cas, c'est drôlement sympa votre petit podcast à tous les deux sur les séries Marvel. Vous auriez pu faire influenceur comics, c'est dommage.
C'est vrai.
C'est dommage, vous avez raté votre vocation.
Et pour ça, faut faire du drama sur Twitter, alors c'est chiant.
Allez suivre Valentin sur Twitter, n'hésitez pas.
Allez faire du drama avec
le live d'Antoine Daniel.
Allez voir, il y a beaucoup de drama.
Oh oui.
Yonda, tu regardes Twitch ?
Ouais, de plus en plus, et je suis dans la dynamique dont vous avez parlé avant, c'est-à-dire qu'il y a des contenus que je vais regarder parce qu'ils sont diffusés à certaines heures, le matin. Le matin, j'ai aussi pas mal entre la matinale de Nowtech, qui là est en pause cet été, mais qui est donc une matinale tous les jours de la semaine. Après, je regarde Tonton, Twitch aussi, Mister MV, Antoine Daniel. C'est plus le soir, du coup.
Il y a une vraie chaîne Tonton Twitch ?
Tonton, il s'appelle Tonton. Et c'est cool, il stream du jeu vidéo et c'est un mec très cool. Et j'aime bien ce qu'il propose. Et après, ouais, voilà, je me suis régalé tous les lundis à regarder le FC Silmi, qui était donc une équipe sur FIFA, composée de pas mal de monde. Il y avait Mister MV, Jiraya, c'était animé par j'ai plus son nom, Domingo, et c'était très 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 drôle. Ils vont reprendre normalement pour la prochaine saison, donc voilà, ouais, je me tourne de plus en plus effectivement vers les lives Twitch, et j'ai tendance après à regarder YouTube du contenu, mais effectivement comme je sais que le contenu sur YouTube est dispo n'importe quand, je vais avoir tendance à privilégier Twitch sur des contenus live. Et YouTube, c'est plus pour à côté, quoi.
Oui, YouTube, c'est ton secours si ouais. tu trouves rien sur Twitch.
Ouais, c'est un peu ça. S'il y a personne que je suis qui live, je suis aussi pas mal de gens qui font du code en live parce que j'aime bien. Je trouve que c'est cool et c'est probablement un des trucs que je ferai lorsque j'aurai la connexion pour le faire. Donc, si tout va bien, dans pas très très longtemps. Parce que j'aime bien, c'est cool de partager comme ça des façons de bosser et puis des compétences et connaissances, donc c'est cool, autre que le jeu vidéo. Donc voilà, je regarde pas mal de choses, mais effectivement YouTube est le premier réflexe que je vais avoir sur l'ordi, en tout cas c'est je vais regarder Twitch qui est en live parmi les gens que je suis. S'il y a personne, bon ben ok, je peux aller voir sur YouTube effectivement les vidéos que j'ai à côté.
Ok,
regarder en retard, quoi. Voilà.
Et tu arrives à ne pas acheter tous les jeux vidéo que tu regardes sur Twitch?
Ben c'est facile, n'est pas d'argent, voilà. C'est... Hey non, après non, c'est alors c'est et puis c'est surtout que j'ai aussi le fait que mon ordi n'est pas en capacité de faire tourner la majorité des jeux vraiment très récents, sauf les petits jeux indés comme Death's Door par exemple, excellent jeu. Si vous voulez un petit jeu indé Zelda-like dispo sur Steam, ouais. Régalez-vous.
Par contre, tu peux pas faire tourner de la 3D, c'est ça?
Moi sur mon ordi,
1D c'est possible, 2D ça va, 3D c'est chaud.
Allez, après ça dépend, parce que si je fais du jeu de rôle, je peux faire du dé à 20 faces, ça tient.
Yes,
ça passe.
Du coup, tu peux pleurer si t'es triste et puis surtout envoyer des sous à Mister Yonda pour qu'il puisse acheter un ordinateur.
Alors, j'ai monté un Ko-fi, j'ai lancé une page Ko-fi, donc si vous voulez venir me payer un Ko-fi, n'hésitez pas.
On peut acheter en plus nos ordinateurs avec des liens affiliés pour te soutenir. Évidemment, les liens s'affichent comme d'habitude en bas de notre écran.
Évidemment, nous sommes une émission de professionnels. Évidemment.
Il faudrait qu'on fasse un petit point d'actu là-dessus parce que tu découvres Zelda Breath of the Wild 5 ans après tout le monde.
Ah oui.
Comment se passe ta découverte des plaines d'Hyrule?
Eh, ça m'intéresse vachement en plus. C'est vrai, là, je suis tout ouïe.
Alors,
bon, spoiler d'il y a 5 ans si vous avez pas fait le jeu, évidemment.
Non, alors je vais pas trop spoiler parce que, enfin voilà, si vous avez déjà fait du Zelda, les noms de peuples vous seront familiers et je n'irai pas plus loin que ça. J'ai fait donc le prologue, qui est l'espèce de tutoriel géant un peu qui te fait comprendre que t'es largué et que tu fais ce que tu veux, donc j'ai fait ça.
Est-ce que t'as fait la quête annexe du prologue pour avoir le duvet, la tenue duvet?
Oui,
pour avoir
le évidemment.
Ah bah ouais, okay.
Évidemment.
Professionnel.
Évidemment. Après être parti dans le froid et avoir crevé après avoir bouffé des pommes et des glands, mais que ça n'est pas suffi, je me suis dit il doit y avoir moyen de loot quelque chose par là.
Sachant que c'est une quête que tu n'es pas obligé de faire et que tu peux quand même avoir le duvet si tu es très mauvais.
Et ah bon? Ah ça je ne savais pas.
Et en fait, je sais plus si c'est moi ou mon ex qui a zappé cette étape là. Et en fait en revenant 4-5 heures plus tard dans la maison du vieux, et ben en fait t'as un coffre qui a popé au milieu.
Ah yes.
Il est dedans et c'est en mode bah voilà, t'as pas fait la quête parce que t'es trop con, du coup on va te filer le voilà. Et c'était assez drôle. Ouais.
Mais c'était rigolo. Et alors du coup, donc effectivement, après, ce qui était intéressant, parce qu'on en a eu l'occasion d'en parler en off, c'est que sorti de ce tutoriel prologue, l'univers de Breath of the Wild s'offre à toi et tu fais ce que tu veux. Tu vas où tu veux. Et moi, j'ai commencé par le peuple Zora, donc les aquatiques, l'eau. Et donc j'ai fait la quête sur la partie du peuple Zora et là maintenant je suis parti dans le désert chez les Gerudo ou Gerudo comme on dit d'ailleurs, Gerudo peut-être plus.
Moi quand j'étais petit je disais Gerudo et puis après je dis Gerudo maintenant, mais
on dit Gerudo.
C'est un peu la quête interlope, non? C'est un peu la quête où faut se déguiser, un peu faut se draper, non, pour avancer.
Eh bien
faut...
oui, puisque l'accès à la ville est interdit aux hommes, à l'espèce ça. Masculine. C'est donc il faut effectivement utiliser un subterfuge, effectivement absolument extraordinaire, qui consiste à te voiler le visage et à te dévêtir le bas-ventre. Voilà. Et à partir de là, tu es considéré comme étant une femme dans Zelda.
Tout à
Bref,
fait.
Ne rentrons pas dans ces considérations sexistes.
Tout à fait.
Mais et donc je suis actuellement au temple du peuple Gerudo, Voilà, j'en suis là.
Je suis en train de m'énerver
sur le boss sur le boss Gerudo qui m'agace.
T'as pas avancé alors depuis
j'ai pas rejoué en fait. ça sera le cas après l'enregistrement de cette émission.
Les boss d'après vont te sembler très très faciles,
donc voilà, il me fait chier. Alors ce qui est bien, c'est que du coup il me permet de m'entraîner à choper le timing de la défense avec le bouclier.
Ah oui, aussi, oui.
Parce que c'est quelque chose que je faisais pas du tout jusqu'à maintenant et que bah là, du coup, je pratique un petit peu. Mais il est chiant. Il est quand même assez chiant. Donc, je n'ai pas encore battu. Et, en fait, pour la petite histoire, mon peuple de cœur dans la licence Zelda, ce sont les Gorons. J'aime beaucoup et j'affectionne particulièrement les Gorons. Et donc du coup, je voulais commencer en fait par les Gorons. Sauf que dans Breath of the Wild,
je m'ai perdu.
Au nord.
Quand il te
au
dit,
nord, c'était les Gorons.
Mais c'est vraiment ça en plus, trop bien.
Ah mais c'est génial.
Au
alors
nord,
si c'est ça,
c'était les Gorons.
Et du coup, bien. Lorsque tu commences, enfin lorsqu'on te dit, ben voilà, il faut que tu ailles là, on te dit, on te fait comprendre quels sont les peuples, on te dit voilà, c'est là, et puis après c'est tout. Et sur la carte, tu as les points. Mais les points ne te disent pas à quel peuple ça correspond. Mmh. Donc je me suis dit, bon, ben, je vais commencer par celui-là, c'est le plus près. C'était les Auras. Et après, je dis, bon, attends, je me suis fait niquer, je vais aller de l'autre côté. Ben, c'était les Gerudo. Donc voilà, j'ai pas encore fait les Gorons.
J'allais te spoiler comme un gros porc, puisque effectivement, tu n'as pas la carte. Tu vois les points, mais tu n'as pas le type de terrain,
non.
Quoi.
Ouais, j'ai pas fait les tours. Ouais. J'ai pas fait les tours d'observation, d'accord. Effectivement. Et donc ça, voilà, c'est pour l'histoire et pour l'avancée. Après, en termes de jeu, à proprement parler, de technique et de gimmick, c'est le problème. Je souffre un petit peu.
Sel. Du sel, s'il vous plaît.
Du sel pour la loose, hein. S'il vous plaît. Ben en fait, je souffre un petit peu du syndrome. Que j'essaye d'éviter de plus en plus dans les comics et aussi dans les jeux vidéo, c'est-à-dire le syndrome du survendu et du chef-d'œuvre survendu. C'est-à-dire que j'ai tellement entendu et on m'a tellement dit ouais, Breath of the Wild, c'est fantastique, c'est extraordinaire, c'est le jeu de la décennie, bref, et tous les superlatifs que vous en conviendrez, que bah, effectivement j'avais malgré tout quand même des attentes assez importantes. Et la gestion du monde ouvert est sympa, c'est très intéressant d'avoir injecté cette notion de monde ouvert dans un Zelda.
Attention à ce que tu vas dire.
Mais après, de façon tout à fait, honnête et concrète, il y a rien d'innovant dans les gimmicks de gameplay pour un RPG en monde ouvert et ou pour un Zelda. La gestion de l'arc avec le gyroscope de la manette et tout, c'est très cool.
Valentin, il se prépare. Mais... on l'a vu replacer son micro, on l'a vu se mettre en position. Il a pris ses appuis au sol, tu vois, il est chaud.
Mais je n'ai pas encore, alors ça viendra peut-être, mais je n'ai pas encore trouvé de caractéristiques techniques qui m'ont fait dire ah ouais, ok, là quand même, d'accord. C'est quand même impressionnant. L'univers, c'est toujours aussi cool. Encore une fois, le monde ouvert et le fait que tu sois lâché et que tu dis et qu'on te dit bah vas-y, fais ce que tu veux, ça c'est très cool. C'est une excellente idée d'avoir injecté ça dans Zelda et c'est très bien fait. Mais après, c'est pas un jeu qui est sorti l'année dernière et ça se sent bon techniquement quoi.
C'est un jeu qui tournait sur Wii U. Il est sorti en même temps sur Switch et sur Wii U. Donc c'est vrai que techniquement, il était forcément un peu dépassé. Maintenant, il est sorti il y a encore en plus quelques années. Moi, je me suis fait, et c'est ce qui m'a fait le jeu, je me suis fait happer par l'univers. Oui, on en a déjà parlé ici, dans le sens où dès que t'es quelque part, tu dis bon allez, je vais faire ce temple et j'arrête. Tu sors du temple et la caméra elle te montre que à l'horizon, pas loin, il y a un autre truc qui brille et que peut-être c'est pas loin. Donc bon allez, j'en refais un petit. Et moi en fait, quand je joue à ce jeu-là. À chaque fois, je passe une heure entre le moment où je dis bon allez j'arrête et le moment où j'arrête effectivement. Le temps que tu vois un point qu'il faut aller chercher, franchement ça met une heure. Mais et du coup moi c'est ça, c'est le monde ouvert qui m'a aspiré vraiment. Et il y a ce côté chill où en même temps tu peux taper des boss, ça va être compliqué, mais la plupart du temps tu te balades, c'est assez cool, tu profites du monde. Et moi c'est ce truc là vraiment qui m'a happé.
Je retrouve. Mais alors, pour te rejoindre, je retrouve dans Breath of the Wild quelque chose que je n'avais pas retrouvé depuis Skyrim, qui est effectivement ce que tu viens de dire, où tu vois un petit truc qui brûle, tu dis oh, qu'est-ce que c'est ça, bon, attends, je vais aller voir, et effectivement ce coup de bah allez vas-y après j'arrête, et puis ah mais attends mais ça a pas l'air loin machin etc. Par contre je me retrouve à un peu plus cavaler dans le vide que par exemple dans un Skyrim. Dans un Skyrim, ah, parce que t'as de la découverte quasiment pas à chaque pas, mais tous les 10 mètres quoi. Mais là, je me retrouve un petit peu, et c'est peut-être parce que c'est le début du jeu encore, mais je me retrouve un petit peu à devoir bidouiller pour couper par des montagnes, à escalader en utilisant des Trafalgar pour pouvoir jouer avec l'endurance et me faire des pauses à certains moments où la map me fait croire que c'est abrupt, mais en fait non, je peux me mettre debout pour récupérer l'endurance et donc pour traverser plus facilement la montagne. Et donc je traverse beaucoup de vide, mais voilà,
c'est pas vide, c'est qu'il y a des noisettes cachées que tu les as pas trouvées, c'est tout.
Il y en a combien d'ailleurs?
900.
Il y en a 900.
Oh niquez-vous, 900, mais c'est n'importe quoi. N'importe quoi.
Il y en a 900 et il y en a plus de la moitié.
Il t'en faut que 400 ouais pour débloquer tout ce que tu peux débloquer, avec le reste c'est que du challenge.
Oh,
quoi.
Putain mais merde quoi.
Grand intérêt merde. À mes yeux mais.
Déjà que j'étais devenu fou avec les 50 pigeons dans GTA, là, 400 noisettes Kourougou, c'est bon, niquez-vous, quoi.
D'accord.
Quelque chose à ajouter, Valentin ?
Non, c'est terrible. Merci YouTube et les jeux vidéo qui font que, en fait, je tombe que sur des vidéos de Solus et de Let's Play. Je cherche une vidéo qui explique très bien mon ressenti, qui est sortie quasiment, enfin quelques mois après la sortie du jeu, et le mec expliquait ça très bien, que le jeu t'appelle à la découverte, récompense l'exploration en fait, et récompense le l'oisiveté entre guillemets, en mode bah tu fais juste que marcher, en fait bah tu vas être attiré par une lumière, ça va être un sanctuaire, et après tu vas sortir, tu vas faire autre chose, etc. Et le jeu te récompense tout le temps vis-à-vis de ça, et cette personne-là expliquait ça très bien, notamment au travers des couleurs et comment le jeu ce qui pour le coup
oui tout est vert et il y a des points orange
en fait, voilà le jeu au niveau des couleurs et des lumières attire ton œil en fait, et sans que tu t'en rendes forcément compte tu te retrouves à bouger un peu malgré toi dans certains coins où le jeu t'emmène, tout en faisant en sorte que ça reste quand même très libre et que tu te sentes maître de ton destin, j'ai envie de dire, et de ton aventure. En fait tout a été pensé pour que bah voilà tu veuilles aller toujours plus loin et que tu sois curieux d'avancer, de découvrir de nouvelles zones et de nouvelles choses. Et c'est terrible parce que je ne retrouve plus cette vidéo qui était très bien écrite et très bien faite. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle a sans doute fait très peu de vues et qu'elle n'est plus trouvable. Voilà.
Voilà. Bon, en ce moment, je joue à Biomutant et c'est exactement la même chose. Parce que tu commences, t'es en bas d'une carte, on va te filer une petite, enfin, t'as le choix entre une quête à double entrée en fait à faire, mais en fait dès que tu vas te balader sur la carte, tu vas croiser un village dans lequel il y a un objet, et les quêtes, il y a plein de quêtes annexes qui en fait sont pas indiquées. Genre c'est parce que tu vas trouver la première guitare que ça va ouvrir une quête annexe qui va te dire qu'il y a 8 guitares à trouver sur la map, et que si ça t'intéresse de faire les recherches, bah tu peux essayer de trouver les 8 guitares quoi. Et en fait t'as une sorte de récompense à l'exploration en permanence. En plus, le jeu est assez accessible, il est assez enfantin, c'est un jeu qui est plutôt à conseiller quand t'as entre 10 et 15 ans. Les combats sont, il y a une technique à prendre au début, mais en fait, finalement, bah, c'est assez simple, il n'y a pas vraiment de défi en termes de, dans le gameplay. Et pourtant, je suis mauvais aux jeux vidéo, donc, franchement, il n'y a pas tellement de défi. Mais c'est le côté exploration qui fait que, et t'es en permanence avec des bosquets, et t'entends un truc, et tu vois une ombre, et tu finis par avancer de plus en plus sur la carte. Et ça refait cette incitation à l'exploration, quoi. Alors, par contre, le jeu, c'est un jeu post-apocalyptique, c'est le monde après l'effondrement de notre société. Et alors, je peux vous le dire, et c'est le drame de Chris, c'est les livreurs qui ont gagné. C'est Chronopost qui a gagné. C'est un jeu FedEx. Toutes les quêtes, c'est, ouais, s'il te plaît, va là-bas chercher ça, puis tu me le ramènes. Ah, bah, maintenant que t'es revenu, va là-bas chercher ça, puis tu me le ramènes. Les quêtes, c'est que ça, hein. Du coup, voilà, c'est un monde de livreurs. C'est un monde, c'est le Uber, c'est le jeu Deliveroo, en fait. Le post-apo sera Deliveroo.
Il est probable que ce soit ça, mais sous réserve, parce qu'il faudrait que je la revoie, mais ça semble correspondre à peu près. Il est possible que ce soit, la vidéo de Game Spectrum, qui s'intitule Comment Zelda Breath of the Wild nous parle de liberté. Et il est possible que ce soit ça. Voilà. Sinon, bah, tant pis, je n'aurais pas retrouvé.
Et on a bien besoin qu'on nous parle de liberté en ce moment.
Oui, c'est vrai, on a bien besoin.
Bah oui. Avec la dictature qu'on connaît.
Tout à fait.
On l'a subi.
Oui.
Elle est méchante. Voilà. Ça va, Chris?
Où va cette émission?
Je ne sais pas où elle va, mais je sais qu'elle y va en robot géant, parce que c'est quand même un peu plus simple pour parcourir de grandes distances.
Certes.
Oui, oui, bien joué.
Oui, oui, c'est
et
vrai.
Et c'est
ouais,
un 10
que moi, j'ai...
attribué pour la
transition
pour le joueur français.
Notre technique.
C'est vrai, puisque moi, effectivement, pendant que vous jouiez à Zelda, n'est-ce pas,
je fabriquais des Gundam.
J'ai regardé la trilogie Gundam sur Netflix. Trilogie donc qui est composée, comme vous avez suivi, de trois films qui sont en fait une version condensée avec quelques scènes ajoutées de la première série Gundam sortie en 1979. C'est-à-dire qu'en regardant ces trois films, vous avez plus ou moins le résumé des 45 ou 50 épisodes, il y a un peu moins de 50 épisodes, de la première série Gundam sortie en 1979 au Japon. Voilà, qui est jusqu'à présent inédite chez nous. Je crois qu'elle n'a jamais été traduite en français ni distribuée chez nous. Voilà.
Et donc c'est le best-of, voilà. En fait, c'est la quintessence de...
Oui, alors on peut y revenir, puisque du coup, qui dit que ça n'a jamais été traduit ou distribué chez nous avant ça, dit qu'il faut quand même être chaud pour se lancer dans des films de 2h15, 2h20, en VOST japonais. Donc, si vous êtes pas forcément réceptif à ce type de contenu, ça peut paraître quand même un peu long. Moi qui suis pourtant très client de ce type d'univers et qui ne suis pas spécialement dérangé par la VOST pour les animés, je dois avouer que des films d'animation, c'est une animation qui commence à dater un peu, hein, du coup c'est des films qui ont 40 ans, c'est quand même un peu dur de rester attentif tout au long des trois films. Je dois reconnaître, j'ai eu des petites phases de décrochage.
Ce qui est bien, c'est que Chris, quand il aime quelque chose, il sait te le vendre. Et ça, ouais, ça fait vrai. Toujours plaisir.
C'est vrai. Non, mais il faut quand même prendre en compte tout ça. Cela dit, Gundam, c'est excellent. Et pourquoi? Voilà. Alors là, tu vois, les gens se disent, ah, il a dit que c'était chiant, mais il y a quand même des trucs bien dedans. Pour résumer rapidement l'histoire, ça se passe dans un futur qui est pas forcément déterminé, puisqu'il y a une ligne temporelle avec une datation qui est bien précise. Dans le futur, il y a des colonies spatiales, et parmi ces colonies spatiales, il y en a une qui va se rebeller, qui va décider de d'avoir son indépendance vis-à-vis de la Terre, et qui va venir attaquer la Terre. Cette colonie, elle va changer de nom pour s'appeler le duché de Zéon. Et donc dans ce futur, on utilise ce qu'ils appellent des armures mobiles. Alors ce sont effectivement des robots géants, mais produits en masse et utilisés vraiment comme des armes. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le schéma du Goldorak où t'as un robot géant qui va combattre tous les méchants. Là, on est vraiment sur quasiment des objets du quotidien, un petit peu comme dans Patlabor. Je sais pas si vous connaissez ou si vous vous souvenez de Patlabor. Moi, j'adore
je
ça.
Je connais pas de patrouille, moi. Mais...
Non, pas du tout. Ça n'a rien à voir. Mais Patlabor partait vraiment de ce concept où, en gros, les robots géants, des espèces d'exosquelettes, faisaient partie du quotidien. Par exemple, sur les chantiers, les mecs creusent ou déplacent des charges lourdes avec des exosquelettes, et que parfois il y a un gars sur le chantier qui pète un boulon et qui décide d'utiliser cet exosquelette pour aller braquer une banque, et donc que pour arrêter ça, eh ben on fabriquait des armures de policiers, enfin des robots policiers qui servaient aussi d'armure aux policiers pour arrêter les délinquants qui utilisaient ces robots. Bref, voilà. Le robot est vraiment représenté comme un outil et pas comme une sorte d'entité, comme dans, je prends encore l'exemple de Goldorak parce que c'est le plus connu chez nous peut-être. Et surtout Gundam, en fait, bien au-delà de ces batailles de robots, c'est une réflexion qui est assez poussée sur la guerre et sur les traumatismes aussi liés à la guerre. Il y a tout un aspect un peu géopolitique. Alors ça peut aussi paraître chiant peut-être au premier abord, mais c'est hyper intéressant. Alors c'est un univers qui est assez tentaculaire et assez méconnu chez nous.
Mais le Japon, ça a été traumatisé par la guerre ?
Oui, et puis ça a aussi traumatisé des gens, hein, parce que le Japon est pas... on se souvient tous de Hiroshima, mais bon, je veux dire, avant Hiroshima, le Japon, c'était pas les mecs les plus cools de la Terre non plus, tu vois, donc... c'est de bonne guerre, j'ai envie de te dire. Globalement, et d'ailleurs, c'est là que je trouve que c'est aussi intelligent. Alors, je reviens à mon déroulé.
Oui, vas-y.
C'est un univers assez tentaculaire avec plusieurs séries qui se suivent, mais aussi avec plusieurs lignes temporelles qui partent toutes toujours un petit peu de ce schéma de base avec la Terre et ses colonies, mais selon les versions de la ligne temporelle, le conflit n'est pas toujours le même. C'est-à-dire que on va être parfois dans un cadre où les colonies veulent leur indépendance et vont venir attaquer la Terre alors que la Terre à la limite leur avait rien demandé. À l'inverse, on a des débuts d'histoire où cette fois-ci les colonies sont vraiment persécutées par la Terre. Il y a même une ligne temporelle où les colonies ont été détruites et donc on a une espèce d'univers un peu post-apo. Donc toutes ces lignes temporelles cohabitent mais ne se croisent jamais. C'est-à-dire qu'on a en fait plusieurs histoires différentes qui partent plus ou moins de la même base. Ce qui multiplie les points d'entrée et ce qui fait que t'es pas obligé d'avoir vu toutes les séries Gundam pour commencer à regarder Gundam.
Ouais, c'est une vraie variation autour du thème 2, quoi.
Voilà. Tu peux prendre une de ces lignes temporelles et attaquer. Alors là, bon, la trilogie classique, on va dire, sur Netflix peut servir de point d'entrée. Mais moi, par exemple, j'ai le souvenir d'avoir découvert cet univers-là avec, il me semble, la première série qui a été traduite chez nous, qui était Gundam Wing, qui a dû être diffusée d'abord sur Fun TV. Mais moi, j'ai pas vu ça à l'époque. J'ai découvert sur M6. Et sur M6, il y a que la moitié de la série qui a été diffusée. Ça devait être vers 2001 ou 2002, je crois. Et Gundam Wing, par exemple, est une ligne temporelle à part, et donc tu peux commencer avec Gundam Wing et tu comprends l'univers, comment il est créé, comment ça se passe, les relations entre les colonies et la Terre, à quoi servent les robots géants, etc.
Il y a combien de séries, du coup ?
Ah, il y a un paquet de séries. Franchement, j'ai pas le compte en tête. Si vous voulez attaquer l'univers et que vous avez peut-être la flemme de vous taper ces trois films animés qui commencent à dater un peu, il y a des listes qui sont très très bien faites avec les, on va dire, les points d'entrée modernes les plus accessibles et avec la façon la plus simple d'accéder à l'univers. Il y a notamment un wiki, tout simplement, un wiki consacré à l'univers de Gundam qui est extrêmement complet parce que on va aussi effectivement, Matt en parlait un petit peu, aller vers l'univers du Gunpla qui sont ces maquettes de robots qui sont encore une fois qui est un vaste univers à lui tout seul. Du coup, je sais plus où j'en étais parce que j'étais pas du tout parti là-dessus.
Il y a
à la
des
base.
Séries, du coup, ça commence en prod en 79 et il y a des trucs qui sont encore en prod aujourd'hui, quoi. Enfin, c'est juste.
Ah oui, complètement, ouais.
Je suis épaté.
C'est un univers qui est assez vaste. Sachant qu'en plus, il y a du coup, les séries ne sont pas forcément produites dans l'ordre. C'est-à-dire que par exemple, tu as une espèce de suite qui s'appelle. Alors, anecdote traduction. Le méchant dans cette série classique de 79 s'appelle, excusez mon japonais, Sha Aznaburu, n'est-ce pas? Ou Char Aznable, si vous écrivez ça en bon françois, Char Aznable, qui est tout simplement inspiré du nom de Charles Aznavour. Hein, ouais. Voilà. Tout comme d'ailleurs Xor, dans sa version originale, s'appelle Ushukaiji Gavan, et Gavan, c'est inspiré de Jean Gabin. Voilà. Il y a plein de trucs comme ça, et d'ailleurs il y a aussi un...
Xor, c'est Jean Gabin.
Ouais, Xor, c'est Jean Gabin. Quand il se transforme, il y a un moment tu vois le visage de Jean Gabin. Et dans l'univers de JoJo's Bizarre Adventure, tu as un personnage qui s'appelle Paul Naref. T'as beaucoup de références à la variété française. T'as beaucoup de références à la variété française dans les prods japonaises d'ailleurs. Je sais, ils sont très fans de la culture française en général et de certains acteurs. Il y a pas mal de pubs avec genre Alain Delon ou des trucs comme ça. Ils sont très clients, bref.
Alain Delon.
Alain Delon.
Et donc, je sais plus où j'en étais. Oui, voilà.
Attends, on a rigolé. Il a fait une imitation japonaise et on a rigolé. Ah, on va se faire défoncer. Je vais couper, je l'enlèverai.
La revanche de Char, qui est donc une suite à cette série originale, mais qui est produite bien des années plus tard. Je sais plus en quelle année, mais on est 5 ou 10 ans après, quoi. Donc voilà, c'est un univers qui est doublement tentaculaire parce que parfois la suite de certaines séries sont produites alors que d'autres séries intermédiaires ont été produites et qu'elles se déroulent totalement à part de tout ça. Le point central à chaque fois étant ce rapport entre la Terre et les colonies, cette présence des Gundam qui sont donc des robots un peu plus puissants que la moyenne, alors produits pour des raisons X ou Y, encore une fois selon les séries, et cette utilisation du robot en fait comme prétexte à traiter de thématiques plutôt humaines et que juste des combats de robots, tu vois, c'est pas le fond du truc. Donc voilà, je sais plus où j'en étais.
C'est comme le zombie en fait, c'est le même.
On est parti. Oui, complètement. On est exactement sur le même plan, tout comme le zombie sert à traiter de sujets sociaux, le robot géant c'est clairement un outil pour traiter, alors avec un prisme plutôt de science-fiction et les thématiques vont être peut-être un peu moins sociales. On est vraiment sur de la après c'est le traumatisme basique, mais on est vraiment souvent sur le traumatisme de la guerre et tout. Et d'ailleurs, et oui, c'était là-dessus que je voulais arriver avant qu'on parte dans tous les sens. C'est là que c'est assez intéressant parce que même si justement on va dire, il y a justement tout le monde connaît Hiroshima, tu vas dire oui mais avant ça le Japon a envahi une partie de l'Asie, etc. Et ben justement le point de vue il est jamais simpliste. C'est-à-dire que quand on a une colonie qui se rebelle et qui attaque la Terre, on se rend compte comment va la Terre, c'est peut-être pas... Ils sont peut-être pas pour autant les vrais gentils ou que la colonie c'est peut-être pas juste des méchants. Gundam, ça fait vraiment partie de ces séries où le point de vue des méchants devient pas forcément excusable dans le sens où ils vont avoir plus tendance à tuer des gens, même si le héros, bah, en temps de guerre dans son robot va aussi tuer des gens. Mais tu vas te dire peut-être que si j'avais eu le même parcours que tel ou tel personnage, j'aurais aujourd'hui la même vision que lui parce que il a grandi dans un système particulier et il a évolué de cette façon-là à cause de son environnement, des gens qui l'entourent et tout. Donc pour moi, ça fait partie, en tout cas à ma connaissance, des premières séries peut-être à avoir vraiment cet aspect-là. De te démontrer que bah, les méchants sont méchants, mais c'est pas juste, à la limite, tu vois, comme dans Goldorak, où même si, encore une fois, il y a sûrement un fan de Goldorak qui va débarquer et dire non, mais c'est pas vrai, parce que dans tel épisode, on apprend que le méchant il avait ça ou
ça. Non, mais ça n'a rien à voir, mais tu parles de trucs que tu connais pas. Laisse parler les connaisseurs, s'il te plaît, c'est bon, retourne à tes comics, ça va, merci.
Je connais très bien Grandizer, et je peux te dire que ça ne se passe pas comme ça. Mais encore une fois, je trouve que voilà, dans Gundam, c'est particulièrement intelligemment mené, même si on n'échappe pas à la rivalité amoureuse entre le gentil et le méchant, parce qu'il y a une femme au milieu de tout ça. Voilà, il y a encore tout, ça date de 79, donc il y a quand même pas mal de clichés un peu usés aussi de la science-fiction de l'époque. Mais
alors que aujourd'hui, le gentil et le méchant, ils laisseraient la femme pour découvrir qu'en fait, ils ont un amour secret et inavoué entre eux, et c'est comme ça que se résoudrait le combat, quoi. Peut-être. Et ce serait beau.
Ouais, ça serait un peu comme Star Wars 9 en fait.
Mais regardez Man Seeking Woman, hein. Bref. Vous saurez en voyant, du coup.
En voyant quoi?
Man Seeking Woman, dont je vous ai parlé la dernière fois. Plus Chris, il va aimer, il y a des robots, genre.
Ah, bah alors s'il y a des robots, je note.
Alors... Et Hitler vieux. Comme je disais.
Donc voilà, ouais, c'était mon visionnage du moment sur Netflix.
Du coup, t'as maté les trois films qui sont le remake des séries de 79 et tu vas continuer.
Et j'ai continué parce que j'ai déjà regardé donc le quatrième film, si on peut dire chronologiquement, qui est la revanche de Char contre-attaque, je crois ça s'appelle, il me semble, c'est ça.
Ah, c'est Tank Police. Dominion Tank Police, c'est ça, les chars qui contre-attaquent. C'est un dessin animé où c'est les polices, ils ont des tanks dans la ville.
Ouais. Merci pour cette référence. C'est toi aussi, tu faisais la collection manga dans les années 90 en VHS, non? Tu as fait la même collection que moi.
Non,
tu n'as pas fait cette collection. Pourtant, c'est grâce à cette collection que beaucoup de gens ont découvert les mangas, enfin les animés du coup plutôt, mais enfin et aussi du coup par extension le manga en général. Mais voilà, bref, c'est pas le sujet de cette conversation.
Je n'avais pas de magnétoscope.
Ah oui.
Et oui. Ah merde.
Ni d'argent pour en acheter un.
D'accord. Est-ce que on pouvait pas avoir de litchi à l'époque? On peut pas faire des pour se faire offrir un magnétoscope. Voilà, ouais, non, c'était mon visionnage du moment. Je vous encourage à vous intéresser à l'univers de Gundam, pas forcément à travers ces trois films, puisque encore une fois, comme je le disais, je suis pas sûr que ça soit le truc le plus accessible à froid.
Ouais, c'est quoi le point d'entrée du coup?
Honnêtement, non, bah non, encore moins, parce que du coup là, c'est sur la suite des trois films. Honnêtement, alors je n'ai pas encore regardé. Il y a des séries plus récentes sur Netflix. Il y a notamment Gundam Unicorn qui doit être une des séries les plus récentes, mais je ne l'ai pas regardé, donc je ne sais pas si c'est un bon point d'entrée. Après, j'ai tendance à dire, honnêtement, de moi, de ce que j'ai vu un petit peu, des séries que j'ai pu voir, des films que j'ai pu voir, on n'est jamais trop perdu parce qu'il y a quand même toujours une base. Enfin, du moment que t'as compris cette base. Entre l'opposition entre la Terre et ses colonies, et qu'au milieu de tout ça, il y a des personnages qui vont jouer un rôle particulier avec tel ou tel robot, tu comprends comment ça fonctionne, hein. C'est pas non plus métaphysique, hein, ok? Donc, je pense que globalement, n'importe quelle série peut être, sauf quand t'es vraiment sur des, il y a des séries par exemple qui sont en deux parties, t'as une suite, comme des systèmes de saison, même si là on est sur des séries parce que c'est pas un système de saison à l'européenne. Évidemment, ne commencez pas par la saison 2, mais mais sinon
saison 2 épisode 17, j'ai rien compris.
Évidemment, mais autrement, à partir du moment où vous prenez une série à son premier épisode, vous avez les bases. Rien n'empêche après de regarder les séries précédentes comme de la préquelle et ça reste tout à fait accessible.
Et il y a de la VF? Parce que t'as dit que c'était compliqué de se lancer en VO japonaise.
Il y a de la. Alors sur Netflix, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de VF. Il y a assez peu de séries traduites en VF puisque Gundam Wing a été diffusé en version française. Donc il existe une VF, mais je crois qu'elle n'est même pas commercialisée. Je crois que les coffrets DVD, etc., ont peut-être existé, mais n'existent plus. Donc peut-être à chercher du côté du marché de l'occasion. Et sur Netflix, je ne suis pas sûr que les séries aient des versions françaises systématiquement. Ce qui est sûr, c'est que les films des années 70, enfin de la série de 79 et leur suite n'ont pas de VF. Voilà. Donc pour vous, je me suis quand même enquillé pas loin de 8 heures de films en VOST japonais à raison d'un par jour. Je suis bien calé en japonais en ce moment.
Le mec est quand même vindicatif. Hein. Ouais, pour vous, je me suis infligé ça. Ouais. Vous me l'avez demandé, j'ai fait mes devoirs.
Non, c'est faux. C'est faux, mais en fait, ça faisait très longtemps que je les ai mis dans ma liste sur Netflix et que j'avais pas encore eu le temps de me lancer. Et donc, comme j'ai eu un petit peu de temps, que j'avais 2 heures tous les jours pour mater un film, je me suis dit, bah allez, je vais me lancer, je vais regarder un film par jour.
Il y a des listes sur Netflix et...
Bah, tu peux faire une liste, ouais. Tu peux faire une liste.
Moi, je sais pas, vision. Moi, je vois, je regarde, hein. Je vois un truc qui me plaît, je regarde, et puis voilà, hein, c'est parti.
Alors, j'ai tendance à voir un truc, à le mettre dans la liste et à le regarder qu'un an après, donc c'est un
putain,
peu ça le problème.
Quel mec bien élevé.
Ouais, c'est vrai. Mais c'était quand même, parce que du coup, effectivement, comme d'habitude, comme Matt, comme les gens sont comme Matt, ils ne vont retenir que le négatif, où j'ai dit, oh, ça fait quand même beaucoup de VOST, mais j'ai beaucoup apprécié ce visionnage, sachez-le, voilà. J'ai beaucoup aimé cette série, et je trouve qu'il y a vraiment plein de bonnes choses. Et plein de trucs un peu avant-gardistes en plus, puisque faut pas oublier que ça date de 1979 et que ça traite déjà de sujets assez pointus pour de l'animation, entre guillemets, c'est pas péjoratif. Mais c'est aussi d'ailleurs un des tournants, je pense, de l'animation japonaise qui commence à s'adresser aux adultes. Alors qu'avant ça, l'animation japonaise s'adresse plutôt aux enfants.
Ok.
Merci monsieur.
Non, je suis en train de réfléchir. Ça me surprend parce que justement j'étais resté sur le clash hein, que l'histoire de Ken le survivant en fait qui a été diffusée dans le Club Dorothée alors que c'était pas du tout un dessin animé pour les enfants, mais on avait fait l'amalgame en France.
C'était trop bien.
On avait fait l'amalgame en France en mode. Mais j'ai kiffé aussi. Hein. Mais on avait fait l'amalgame genre celui du dessin animé, donc on va le mettre dans les émissions pour enfants et on n'avait pas compris à ce moment-là en France qu'il y avait de l'animation pour adultes et de l'animation pour enfants. C'est ça l'histoire en vrai. Franchement, on n'est pas passé loin de Urutsuki Doji à 16h40 un mercredi après-midi, quoi.
Mais il n'empêche que les doubleurs VF se sont bien fait plaisir.
Tu es mort, mais tu ne le sais pas encore. Mais du coup,
comme les temps, les œufs sont durs. Non, c'est comme les œufs, les temps sont durs. C'est ça, c'est à l'envers.
C'est dans Ken, ça?
Ouais. Comme les œufs sous la couette, dans ton cul. Voilà.
Oh my wa mushi.
Mais du coup, avant 79, il y avait que de l'animation pour enfants.
Non, il y avait pas que de l'animation. Alors ça y est, Matt, tu dis à Matt, ça représente un tournant. Matt te dit, ah ouais, donc avant c'était que ça. Non, je te dis que ça représente un des tournants qui fait que l'animation japonaise a toujours été, je pense, beaucoup moins douce par rapport à l'animation européenne où aujourd'hui on prend clairement les gosses pour des débiles profonds. Il faut pas qu'il y ait un mot un peu plus haut que l'autre. Je veux dire, par exemple, Goldorak, quand c'est arrivé, tout le monde te disait que c'était hyper violent. Alors que objectivement, aujourd'hui, tu regardes Goldorak, tu trouves pas ça hyper violent. J'ai regardé il y a pas très longtemps le premier film Gamera qui doit être de 50-60, j'ai pas la date en tête, mais bon, bref, qui date d'il y a un certain temps. Et c'est à la base au Japon considéré comme un film plutôt pour enfants, c'est un film de Kaiju Ega pour enfants. Or c'est assez dur, genre le gamin il est pas maltraité par son père mais il est un peu traité comme un chien, tu vois, enfin, genre le père lui parle super mal, lui secoue un peu la gueule et tout. Et je veux dire, enfin, clairement, aujourd'hui, tu dis, ouais, pour les gosses, c'est un peu tendu. Et en fait, visiblement, pour les enfants japonais à l'époque, ça passait large. Alors que je pense que déjà, pour les enfants en Europe, on t'aurait dit, ah non, attention, il y a un monstre, ça peut pas être pour les enfants, tu vois. Donc, c'est vraiment, là, c'est le clash des cultures, tu vois ce que je veux dire. C'est le choc des cultures, c'est des appréciations différentes, des approches différentes, des histoires de cultures différentes. Donc, tu peux pas comparer ça, effectivement, c'est le cas Ken le survivant en France, tu vois. On dit, ah, c'est un dessin animé, c'est forcément pour les enfants, même si t'as des dessins animés hyper gore, hyper trash et tout.
Bah, c'est comme Sausage Party qui est sorti il y a quelques années où t'as des gens qui comprenaient pas que en fait, fallait pas emmener ton gosse dans une salle de cinéma qui diffusait Sausage Party parce que c'était un dessin animé qui parlait de cul, qui était violent, qui était voilà quoi. Donc ça arrive encore de nos jours.
Mais après c'est le même problème avec la BD. Il y a des gens pour qui la BD c'est pour les enfants. Je veux dire, oh, je t'ai acheté une petite BD pour enfants, c'est du Manara, tu vas voir, tu vas adorer. Ils vont trouver ça, les enfants vont adorer. Ils vont trouver ça super.
Je t'ai acheté Airboy, tu vas te régaler.
Ouais, non, et encore, c'est pas le truc le plus trash de la Terre, tu vois. Enfin, je veux dire, on sait tout ce qu'il y a, tout comme, c'est comme si tu disais, ah non, mais le cinéma, c'est pour telle classe de personnes. Enfin, ça n'a aucun sens de dire la BD ou l'animation, c'est pour tel type de personnes. Il y a pas de...
Donc en fait, ce podcast, par exemple, il est pour quel genre de personnes?
Pour ceux qui ont du temps à perdre.
Pour les connards.
Pour ceux qui ont du temps à perdre.
Meilleure conclusion, lavez-vous les mains?
Non, non, bah,